Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe et spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mères et des pères sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, c'est très simple. Notez-le, abonnez-vous et mettez un commentaire avec 5 étoiles de préférence en fonction de votre plateforme d'écoute. Mais surtout, partagez-le sur les réseaux sociaux @milkshakerpodcast pour le faire connaître. Vous avez désormais la possibilité de faire un don pour soutenir Milkshaker et par la même occasion soutenir une association. En effet, 50% des dons seront reversés à des associations qui en ont besoin. Ce mois-ci et jusqu'au 1er juillet 2021, Milkshaker commence très simplement par soutenir IJI, une association pour laquelle je suis bénévole en tant qu'ostéopathe, fondée par Catherine Ribus et qui a pour vocation de prodiguer des soins ostéopathiques gratuits pour les femmes et les enfants. J'y tiens tout particulièrement car c'est cette association qui m'a permis de connaître Catherine. Et c'est par ce biais que nous nous sommes découvertes et lancées dans l'aventure folle de créer en région parisienne un centre de soins pour les femmes et les enfants. Pour plus d'informations et pour faire un don, rendez-vous donc sur mon site internet charlotte-bergerot.fr, rubrique Milkshaker. Et comme il se dit couramment que c'est avec de petits ruisseaux qu'on fait de grandes rivières, je vous précise qu'il n'y a pas de petits dons. Et maintenant, place à l'épisode. Amélie est la maman de 2 enfants, Léonard, qui a 11 ans, et Scheherazade, dont on dit l'âge en réel et en corrigé, car cette princesse des mille et une nuits a décidé de pointer son nez dans notre monde à 26 semaines, 1 jour et un peu plus de 800 grammes, ce qui faisait d'elle une très grande prématurée. Et Scheherazade est allaitée, alors cette histoire a évidemment fait frétiller mon cœur et Milkshaker. Je voulais recueillir cet incroyable récit. Comment passe-t-on d'un bébé dont le pronostic vital est engagé dans les 12 prochaines heures, sondé, scopé durant des semaines, au bébé au sein exclusivement et qui, de surcroît, ne veut plus prendre de biberon? L'histoire est comme un conte, aussi longue que belle et semée d'embûches. On y parlera prématurité, bien sûr, de tir à allaitement, de mise au sein, de peau à peau, de bêtises que font les bébés prématurés, mais aussi de dons de lait, de soutien indéfectible, de congés maternité à rallonger, de force et de courage, d'une maman qui prend sa revanche sur son accouchement et décide que cet allaitement sera son lien avec sa fille arrivée trop tôt, comme la garantie qu'elle ne partira pas. Place à Amélie, Scheherazade et leur promesse de faire durer leur histoire bien plus de mille et une nuits. Belle écoute. Bonjour Amélie, bienvenue dans Milkshaker.
Bonjour, merci de m'accueillir sur ton podcast.
Avec grand plaisir, Amélie, on est là aujourd'hui pour parler allaitement. Oui. Mon petit doigt me dit que tu as 2 enfants et que les 2 ont été allaités. Alors, est-ce que tu veux commencer par nous raconter ta première expérience d'allaitement pour qu'on comprenne d'où ça part, parce que la deuxième est très particulière, parce que tu as accouché d'un bébé très prématuré. Oui. Et donc, ça va être une histoire toute singulière. Alors, vas-y, raconte-nous d'où on partait.
Alors, avec plaisir, Charlotte. Alors, les deux expériences sont évidemment très différentes parce que, comme tu l'as dit, la deuxième, avec Shahrazad, qui est née extrême prématurée, donc c'était vraiment particulier. Mais même sans ça, je pense que les deux expériences auraient quand même été très différentes parce que mon fils, Léonard, il est né il y a 10 ans. Donc, moi, j'étais une jeune maman. Enfin, je l'ai eu, j'avais 24 ans. Et quand j'ai eu Léonard et j'ai accouché de Léonard, je me suis dit que j'allais essayer l'allaitement, mais j'étais pas non plus à fond dedans. Et surtout, à l'époque, j'avais l'impression qu'on n'avait pas, enfin, en tout cas, moi, j'avais pas énormément d'informations sur l'allaitement. Je savais que c'était un truc sympa à essayer. Moi, je sais que je viens d'une famille où ni ma grand-mère du côté maternel ni ma mère n'a allaité. Donc moi, c'était biberon direct. Et je savais que c'était sympa à essayer, mais j'avais pas accès à beaucoup d'infos à l'époque. Il n'y avait pas Instagram. Ça me fait trop bizarre de dire ça, que j'ai eu mon fils quand il n'y avait pas Instagram encore. J'ai l'impression d'être très âgée, d'avoir 1000 ans. Et voilà, il n'y avait pas tout ce truc de libération de la parole sur l'allaitement, d'infos qui se diffusaient. Il y avait peut-être la Leche League qui existait déjà, mais c'est vrai qu'on voyait un peu l'allaitement comme un truc sympa, mais aussi des nanas très, très déterminées et qui ne juraient que par ça. Donc, au-delà du contexte, j'accouche de Léonard. À la maternité, l'accouchement est vraiment pas facile. J'accouche pendant plus de 24 heures. J'ai une épisiotomie géante, il sort au forceps. Donc, je suis crevée. J'ai le postpartum. J'ai mal partout. Je suis jeune, je suis très contente d'avoir un bébé, mais je suis stagiaire à l'époque hein, quand j'ai Léonard. Donc, je suis pas non plus dans un truc hyper rassurée. J'ai pas de congé mat. Donc, il y a plein de trucs qui me font peur et qui me stressent au-delà du fait d'avoir mon bébé. Et avec son papa, la relation n'est pas méga facile, tu vois, pour te donner une idée.
Du soutien dont tu vas bénéficier.
Ouais, voilà, le soir de l'accouchement, tu vois, une fois que le lendemain, je crois, une fois que son fils est né, il est parti faire la fête au Baron. À l'époque, c'était la boîte où tout le monde allait à Paris. Et voilà. Donc, on était dans ce type de contexte. Donc, j'étais un peu toute seule avec mon bébé. Enfin, je me sentais, en tout cas, j'étais pas vraiment toute seule avec mon bébé, mais je me sentais seule avec mon bébé. Et je me suis dit, OK, j'essaie de l'allaiter. Donc, à la maternité, on me le met au sein, je donne le colostrum et je galère, mais direct. Il n'arrive pas à choper le bout du sein. Et en fait, la maternité, très vite, elle me colle des bouts de sein en silicone, tu vois, qui sont censés aider. Donc, ça marche un peu, mais si bien que très vite, je vais quasiment plus pouvoir m'en passer quand je le mets au sein. Donc, je l'allaite, passe une semaine, 2 semaines, et honnêtement, c'est la galère. C'est la grosse galère. Il dort pas beaucoup. Je me lève la nuit tout le temps. Je suis en plein
Parce que du coup, il
postpartum.
réclame beaucoup.
Il réclame beaucoup parce qu'en fait, il a pas l'air rassasié, quoi. Enfin, ça, bon, moi à l'époque, j'en ai aucune idée, quoi. Mais c'est vrai que il réclame beaucoup. Je dors pas beaucoup. Je pleure beaucoup parce que je suis en postpartum. C'est compliqué avec le papa. En plus, je ne me souviens pas d'avoir un tire-lait quand je sors de la maternité. À la maternité, ils me disent pas, prenez un tire-lait, tirez votre lait. Je sors comme ça de la maternité avec mes bouts de sein en silicone et voilà. Donc, je l'allaite, mais bon, je suis un peu en mode genre, non, mais quand même, c'est sympa parce que les anticorps, parce que tout ça, c'est quand même mieux l'allaitement. Et puis, je continue à essayer jusqu'à un jour où je me rappelle, on part en week-end chez mes beaux-parents, chez les parents de son papa. Et donc là, on arrive là-bas, et puis on trouve que Sherazade, je pense pas que c'était une visite de contrôle parce que elle était suivie à Paris, à la PMI. Je me souviens très bien, j'allais toute seule à la PMI.
Léonard.
Là, oui, pardon, je dis elle. Pardon, je
Non, t'as
transpose
même dit
Sherazade.
Sherazade.
Ah n'importe quoi. Pardon. Donc Léonard, excuse-moi. Oh là là, mon Dieu. Donc Léonard, mon fils. Donc à l'époque, il est suivi à la PMI, etc. Et on trouve. Il a perdu un peu de poids, enfin, on ne le trouve pas très en forme, donc on l'amène chez un pédiatre en Normandie. Et là, le pédiatre nous dit non, non, mais il regarde la courbe de poids, on le pèse, il dit non, mais là, ça va pas, il a perdu du poids, il avait perdu plus de 10% de son poids, je crois, un truc comme ça, enfin, la limite où ils te disent c'est pas bien. Et donc,
Donc, il
assez
t'a dit qu'il
vite.
fallait le compléter, là.
Donc là, il m'a dit, on va faire deux trucs. Déjà, vous prenez un tire-lait. Je dis, ah bon, un tire-lait? Mais vraiment, je peux avoir un tire-lait chez moi. Enfin, j'étais même pas au courant, en fait, je me rappelle. Donc, et plus vous lui donnez un ou deux biberons par jour, je sais plus, pour le compléter. Et donc, je rentre à la maison, je commence à tirer mon lait, mais en plus en mode pas hyper sympa, parce que le père de Léonard va me chercher le tire-lait en mode genre, bon, bah, essaye au moins de tirer ton lait, vu que tu n'es même pas capable d'aller. Enfin, je sais pas, il y avait un truc pas cool. Donc, stress, enfin, pas bien. Et on donne les biberons, et donc on continue comme ça. Il se rend plume, sauf que bah, j'ai beau tirer mon lait, vu qu'on lui donne des biberons hyper régulièrement et qu'il se rend bien compte qu'il y a plus de à manger dans les biberons qu'à la laite, qu'avec mon sein, et bah, on bascule en biberon assez vite. Et donc, du coup, ce qui permet aussi, moi, la nuit, de me relayer, parce que le papa donne des biberons, du coup, un peu. Et donc, assez vite, Léonard, au bout de 1 mois, je crois, est passé en lait infantile, quoi. Et j'ai arrêté l'allaitement.
Oui, ouais. Parce que l'allaitement a vite périclité. Ce bébé, ouais. Visiblement, t'étais pas super bien. Il avait pas ce qu'il voulait. Et puis, ouais. En fait, ouais. Au moment où tu l'as complété, ça a dégringolé.
Ouais. Et puis, pour la petite anecdote aussi, quand j'ai eu Léonard, j'étais stagiaire. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il est né, la boîte pour laquelle j'étais stagiaire m'a rappelé pour me proposer un job. Donc, j'étais un peu genre en mode « oui, bien sûr ». Sauf que c'était assez tôt. Donc, j'ai dû laisser Léonard de mémoire à 2 mois, 2 mois et demi, un truc comme ça, enfin très tôt. Si bien que je gardais, tu vois, des espèces de tétés câlins le matin et le soir, quoi. Mais alors, la reprise en plus du boulot a complètement mis fin totalement à une quelconque velléité d'allaitement. Hein. C'est quasiment, je sais pas comment font les nanas. Pardon, Scheherazade a décidé de tirer les.
On a Scheherazade qui attrape les écouteurs de temps en temps, hein, vous inquiétez pas.
Les écouteurs, tout à fait, c'est très intéressant.
Ça sert de collier d'allaitement en même temps.
Absolument. Et donc, la reprise du travail a complètement mis fin à cet allaitement. Et vraiment, je ne sais pas comment font les femmes aujourd'hui pour travailler et allaiter. Honnêtement, je trouve que c'est... Enfin, quand elles ont un job hyper régulier et qu'elles doivent aller au bureau et tout, je trouve ça hyper complexe. Enfin, je ne suis pas confrontée, moi, mais je les admire vachement. Parce qu'aujourd'hui, je vis un allaitement et je me rends compte que, bah voilà, faut être quand même pas mal collée à son bébé, quoi.
Ouais, tout à fait. Bah ouais, c'est pas le truc le plus facile du monde d'allaiter et de travailler. C'est vrai que les congés parentaux en France ne vont pas dans le sens d'un allaitement qui perdure, quoi.
Absolument. Et là, je m'en rends compte parce que autant pour ma première grossesse, j'ai pas eu de congé mat. Et puis bon, j'étais jeune, donc j'étais plutôt stressée par le fait d'avoir une carrière. Donc je me suis pas, voilà, j'ai pas trop réfléchi sur est-ce que c'était bien ou pas de pas avoir de congé mat vu que j'avais peur, j'avais envie d'avoir un taf. Aujourd'hui, j'ai un congé maternité même à rallonge parce que je vais être obligée de prendre un congé de présence parentale pour Scheherazade qui a un bébé qui reste fragile et qui va le rester pendant sa première, voire ses 2 premières années. Donc, je vais rester plus avec elle. Donc là, je suis avec elle depuis qu'elle est née. Et en fait, je me rends compte à quel point c'est précieux, notamment pour l'allaitement. Et c'est là où quand je vois des Anna Roy, par exemple, ma sage-femme qui fait... tout un truc en disant que le congé maternité en France devrait être au moins de 6 mois. Elle a complètement raison, en fait. On ne peut pas demander à des mères d'allaiter parce que c'est meilleur pour leur enfant, parce que c'est bourré d'anticorps, et en même temps leur dire qu'il faut qu'elles travaillent. Il faut accepter quand même qu'on ne peut pas tout faire, qu'on a beau être des super-héroïnes multitasking, qu'on arrive à faire plein de choses en même temps. Il y a un moment, il faut aussi revaloriser la place... de la mère, en fait, qui et de la femme, ouais, qui a aussi le droit, même si elle a le droit d'avoir une carrière, qui a aussi parfois le droit d'être à l'intérieur de chez elle, de s'occuper de son enfant, enfin, qu'elle fait juste quelque chose d'essentiel pour la société, en fait.
Ouais, tout autant, voire plus qu'en travaillant.
Oui, voilà, parce qu'en fait, elle donne naissance à... aux gens qui composent la société.
Aux adultes de demain, voilà.
Relativement important.
Si peu.
Oui, c'est ça.
Ok, et alors après cette première expérience d'allaitement, donc on l'a compris, tu baignais dans la bonne désinformation qui tourne autour de l'allaitement, ton entourage aussi. Ouais. Arrivé à cette deuxième grossesse, qu'est-ce qui avait changé dans ta tête? Parce que donc Scheherazade arrive prématurée et c'est pas le plus facile d'allaiter un bébé prématuré.
Ouais.
Alors est-ce que tu avais une profonde volonté d'allaiter pendant cette deuxième grossesse? Qu'est-ce qui avait changé? Comment t'abordes cette deuxième fois?
Alors, déjà, il y a eu un peu deux phases. La première phase, c'était avant d'accoucher, avant que tout bascule, quand je me rends compte que je suis enceinte, le contexte est différent. Bon, déjà, je ne suis pas enceinte du même papa. Je me suis séparée du papa de Léonard parce que la relation était complexe. Là, je suis avec quelqu'un qui est le papa de Sherazade, qui est quelqu'un qui était très tourné par le désir de paternité, d'avoir un enfant, qui est pas forcément hyper informé sur les trucs d'allaitement, etc., mais qui en tout cas, on est dans un cadre familial qui est peut-être plus serein et tourné vers la famille que quand j'ai eu Léonard. Donc voilà, le contexte est un peu différent. J'ai grandi, j'ai 36 ans, je n'ai plus 24, donc je me fais plus confiance, voilà, j'ai une femme assumée, j'ai fait ma carrière, enfin, au moment où je suis enceinte, j'ai un gros job dans une grosse boîte, et il y a un côté, voilà, je vois les choses un peu plus sereinement, enfin, je me dis, bon, c'est un peu une grossesse, voilà, c'est moins compliqué, j'ai a priori les moyens, enfin, j'ai moins de stress alentour. Et puis je suis beaucoup plus informée parce que je suis beaucoup plus active notamment sur les réseaux sociaux et que je suis plein de comptes sur la maternité, etc. Puisque j'ai notamment créé il y a 2 ans un compte Instagram qui s'appelle The Very Good Mother, qui est un compte de mème un peu drôle qui essaye de déconstruire les injonctions faites aux mères dans la société, mais de manière un peu marrante. Donc, je raconte les galères de maman ou les trucs un peu drôles, toujours avec un second degré. Et parfois, je m'intéresse à des thèmes un peu, voilà, j'essaie de démonter le racisme, les anti-allaitements, les pro-allaitements à tout prix. Enfin, voilà, essayer de déculpabiliser un peu les mères. Donc, en faisant ce compte, je suis entourée d'une communauté de beaucoup de mamans qui suivent le compte, avec qui j'échange pas mal. Et puis moi-même, je suis pas mal de comptes Instagram. Et il y a pas mal de comptes Instagram qui parlent d'allaitement. Donc, je suis beaucoup plus renseignée. Pendant ma grossesse aussi, je me mets à découvrir la marque Tajine Banane.
Ah ouais, qui te file envie d'allaiter, of course.
Ouais, en fait, rien qu'en suivant leur compte Instagram, honnêtement, je me suis dit, mais l'allaitement, c'est trop cool. Parce que non seulement j'avais plus d'infos et je me rendais, enfin, j'avais bien compris que l'allaitement, c'était quand même quelque chose qui était bien plus bénéfique hein, pour un bébé, quand même, on va pas se mentir, hein, il y a les anticorps, il y a le colostrum au début, les anticorps, etc. Donc voilà, mais c'est vrai que ce truc de cette marque Tajine Banane, je trouve que voilà, l'histoire d'Alison, la fondatrice avec sa famille, quand elle a eu son fils, et des petits problèmes à l'hôpital de santé, etc. Et elle a vraiment voulu allaiter et elle s'y est mise, mais il y a un côté promouvoir l'allaitement, mais dans une idée hyper ouverte, sympa, bonne ambiance, c'est la mif. Et c'est pas culpabilisant, comme parfois vous pouvez le faire la Leche League, honnêtement. Je suis en train d'aller voir le site, etc. Ou parfois, c'est un peu, si vous allaitez pas, vous allez mourir, brûlé en enfer, parce que vraiment, vous êtes une mauvaise mère. J'aime pas du tout cette vision non plus. C'est-à-dire, j'aime pas les pro-allaitements intégristes et j'aime pas les contre-allaitements intégristes non plus. Tu vois, je suis vachement, en mode, voilà, que chacune fasse ce qu'elle veut, ce sera la meilleure mère pour son enfant et Dieu pour toutes, quoi. Enfin, il y a un côté
Exactement.
non-jugement. Et donc là, pendant la grossesse, j'étais beaucoup plus dans une approche, ouais, je vais allaiter, ça va beaucoup mieux se passer. Puis d'ailleurs, je vais peut-être accoucher dans une maison de naissance. Et puis d'ailleurs, je vais faire du yoga pré-postnatal. Et puis, je vais avoir une doula. Enfin, je rêvais d'un truc un peu plus cool, physio, moins médicalisé, etc. Mais j'avais quand même une petite pointe de stress, même d'angoisse, hein, de profonde angoisse, je dirais, ouais, mais quand même, il faudrait que j'aille accoucher à l'hôpital, mais qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas, j'arrêtais pas de dire à Hamza, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Enfin, je sais pas, j'avais un truc un peu bizarre, d'inquiétude. Mais
Tiens.
physiquement, pendant la grossesse, tout allait bien, il n'y avait aucun signe avant-coureur de ce qui allait se passer. J'avais pas de problème pendant ma grossesse qui était identifié. J'avais pas de menace d'accouchement prématuré, en fait, à la base. C'était pas du tout. Donc, oui, j'ai 36 ans, mais je suis pas non plus. Enfin, ils m'avaient pas diagnostiqué comme un âge très avancé qui veut dire forcément accouchement prématuré. Voilà, j'avais une petite angoisse qui traînait. Alors, je me disais, c'est peut-être parce que ma première grossesse n'était pas si facile que ça, que du coup, ça remontait. Mais en tout cas, pendant la grossesse, je m'étais dit, allez, je vais essayer d'allaiter, mais sans me foutre plus la pression que ça, pour répondre à ta question.
D'accord. Ouais, tu étais dans ce middle, ni à fond, ni contre, mais tu t'es dit que c'était le mieux pour ton bébé et que...
Ouais, et que j'allais essayer, qu'il y avait des marques cool et que tu vois ta jeune
voilà,
madame.
Voilà, et que ce serait quand même cool de s'acheter 2-3 fringues. Cool
et que voilà, donc je l'envisageais un peu comme ça avant que tout bascule, quoi.
Mmh. Voilà, et alors tout bascule, à quelle date? Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous dans les grandes lignes, parce qu'entre-temps, on aura eu l'occasion, et je vous inviterai à le faire si vous ne l'avez pas déjà fait, mais d'aller écouter ton témoignage chez Bliss Stories. Donc, un jour, tout bascule, parce que Scheherazade décide qu'elle va sortir plus tôt que prévu.
Et ouais, en fait, un truc complètement imprévu. On fait la deuxième écho, là, des 5 mois, je crois. Tout va... Non, pas 4 mois. Enfin, la deuxième écho, quoi, où on te dit le sexe de ton bébé. On fait l'écho, je suis à 22 semaines, donc à la moitié, un peu moins de la moitié de la grossesse, la moitié de la grossesse, l'écho va bien, on nous confirme que c'est une fille, on part en week-end à Lyon parce que j'ai le baptême de mon filleul, on fait le baptême, je sors du baptême, je perds du sang, pourquoi, je ne sais pas, on part à l'hôpital. Et en fait, je suis en train de faire une fausse couche et ils se rendent compte que j'ai un hématome dans le ventre de 13 cm. Donc, on est à 22 semaines de grossesse. À 22 semaines de grossesse, un bébé n'est pas viable. Il ne le réanime pas s'il naît. Donc là, ils font tout pour stopper le travail qui, Dieu merci, stop. Je passe les détails, mais je passe un mois alité à l'hôpital à Lyon parce que je ne suis même pas transférable à Paris d'où on vient. Parce que la moindre vibration peut provoquer l'accouchement. Donc, je reste allongée, je me lève que pour faire pipi. Et ça tient pendant 4 semaines, ce qui nous permet d'aller jusqu'aux 26 semaines de Scheherazade. 26 semaines au moment où le travail recommence et où ils sont obligés de la sortir en césarienne. Et donc, cette jeune fille est née à 26 semaines et un jour, le 10 octobre, et elle pesait 880 grammes. Et elle faisait 34 centimètres.
Pop, 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 pop.
Petit bébé.
Scheherazade est en face de moi, alors on a presque envie de la gronder. C'est pas du tout une bonne idée, ça, chaton.
Mais c'était trop tôt.
Et alors là, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit, j'imagine que t'as paniqué quand même. T'as eu le temps de paniquer pendant 4 semaines.
Non, mais là, c'est... En fait, c'est même pas de la panique. Là, c'était en mode survie. C'est la catastrophe, en fait. Parce que au tout début, quand t'es hospitalisé... Tu vois, il y a un peu un truc aux urgences. Elle a dit, mais non, mais ça arrive. Bon, bah, vous avez le placenta sur le col. Il y a plein d'anas qui saignent, ne vous inquiétez pas. Et puis, en fait, plus le temps passe. Et puis, en fait, quand tu vois que tu n'es pas transférable et qu'en fait, tu as un hématome de 13 cm dans le ventre et que, en fait, les médecins viennent vraiment t'expliquer que tu es en train de faire une hémorragie interne et que soit l'hémorragie interne se stabilise. Si elle ne se stabilise pas, il faut sortir le bébé pour te sauver toi. Tu as commencé à me sauver moi, les gars. Enfin, on est en train de se parler, là. Il n'y a pas de
problème. Ça, c'était le Moyen-Âge, les gars. On est en 2021.
Ouais, ouais. Je suis pas du tout en train de faire une hémorragie interne, voyons. Si, si. Regardez tout le sang qui coule. Ah, bah, d'accord. Donc, voilà. Donc, là, ça fait hyper peur. On a super peur que Scheherazade nous quitte. Donc, c'est très compliqué. Donc, on se met dans une espèce de bulle en attendant. Et puis, moi, j'avais réussi à me convaincre que ça allait tenir beaucoup plus longtemps que 26 semaines. On a aussi des pédiatres qui viennent nous expliquer ce qu'est la prématurité, parce qu'en fait, on est assez peu informés hein, sur ce qu'est la prématurité et surtout les différents steps de prématurité. C'est-à-dire qu'entre 24 et 28 semaines, tu es dans l'extrême prématurité. C'est-à-dire que tu as quand même peu de probabilité de survivre. Enfin, peu. Tu as une chance sur deux, entre une chance sur deux et une chance sur quatre, ce qui est pas mal. Mais ce qui, par exemple, disons que ton enfant a moins de chances de survivre que si ton enfant jouait à la roulette russe. Et aucune mère voudrait faire jouer son enfant à la roulette russe, tu vois, en termes de probabilité.
Ouais, dit comme ça, c'est vrai que c'est horrible.
Ouais, en fait, c'est pas parce que quand on dit 75% de chances de survie, ça va. Et en fait, tu dis, OK, donc si on joue à la roulette russe, ton enfant a plus de 75% de chances de survie. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu donnes un flingue avec une balle? Bah non, en fait, tu le fais pas parce que c'est horrible. Donc, c'est un peu cette sensation-là. Et puis, après 28 semaines, tu as plus de chance. Après 30 semaines, encore plus. Et puis, après 32, c'est de la prématurité qui se gère beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'entre 24 et 28, c'est chaud. Et non seulement tu as la difficulté de la survie, mais en plus, tu as la question des séquelles qui se posent, puisque ton bébé n'est pas encore assez développé. Donc, tu peux avoir des séquelles motrices ou mentales. Donc, il te prépare, il t'explique que ton bébé a beaucoup plus de chances d'être autiste, etc. Alors, moi, je suis là, bon, alors, si c'est autiste, il n'y a pas de problème. Je sais que vivre. À un moment, on te fait vraiment l'article de tout ce qui peut se passer. Tu es là, genre, oui, bon, c'est pas grave. Il aurait de moins bonnes notes à l'école, c'est pas grave non plus. Juste, s'il peut éviter, ça serait bien. Donc voilà, donc on attend à l'hôpital en se disant oh là là, on espère que ça va tenir le plus longtemps possible. Et surtout avec Hamza, on a super peur à ce moment-là qu'on nous annonce qu'elle naît, mais qu'elle a un handicap hyper, hyper lourd et qu'on doit prendre la décision de la laisser partir. Ça, c'était vraiment notre peur absolue. Mais bon, on attend et 26 semaines et un jour, bam, elle naît. Et là, c'est le cataclysme parce que c'est trop tôt, c'est beaucoup trop tôt. Parce que même si on savait que tu vois, t'oublies, tu dis pas que tu vas accoucher du jour au lendemain, même si t'es hospitalisée et tout, tu penses que ça va aller plus loin et puis en fait, non. Et là, elle naît par césarienne, moi je ne peux pas la voir, elle part directement en réanimation. Tu vois, elle naît à 16h06 et moi je peux la voir qu'à 21h en réanimation parce qu'elle est dans sa couveuse et elle est intubée. Parce qu'elle a beau avoir réussi à respirer du premier coup toute seule, très vite il faut quand même la réanimer et l'intuber parce qu'elle n'arrive pas, ses poumons ne sont pas assez développée, elle a une dysplasie pulmonaire, etc. Et pendant ce temps-là, après l'accouchement, eh ben, c'est terrible parce que tu viens d'accoucher, mais tu n'as pas ton bébé. Tu ne l'as pas eu contre toi. Enfin, je ne l'ai pas vu. Moi, en vrai, Sherazade, j'ai vu une photo d'elle que la sage-femme a prise, mais je ne l'ai pas vue. Donc, je suis dans un très, très grand désespoir. S'ajoute à ça le postpartum qu'ont toutes les mamans. S'ajoute à ça qu'on me met en maternité, dans une chambre en maternité. Alors qu'avant, j'étais en grossesse pato, donc je suis dans une chambre entourée de mamans avec leur bébé. Donc, j'entends les bébés pleurer et tout. Et moi, je suis toute seule. Et les infirmières qui viennent et qui m'expliquent, bon, bah, alors voilà, maintenant, il faut tirer votre lait. Pardon. En fait, j'avais oublié qu'il y avait cette histoire d'allaitement. Parce que bah, pour moi, l'allaitement, c'est on pose ton bébé contre toi, on le met au sein, il prend le colostrum et après, c'est parti.
Tu t'étais dit que ce serait pas possible. En fait, à ce moment-là, alors tu avais peut-être même pas pensé, mais si on t'y faisait penser, t'aurais dit, ben c'est mort, je pourrais pas allaiter.
Je sais pas. En fait, je l'ai complètement enlevé de mon cerveau cette histoire d'allaitement. À partir du moment où j'ai su que la vie de ma fille était en danger, je me concentrais sur sa survie. Et après, je me disais qu'elle allait être plus tard. Je me posais, enfin, je voulais pas me poser la question, j'imagine. Donc, je m'y intéressais pas trop. Et je comprenais pas comment c'était possible ou pas, en fait. Honnêtement, je m'étais pas posé la question. Peut-être que les pédiatres nous en ont parlé parce qu'il y a un truc qui est très important à savoir, c'est que les enfants prématurés ne peuvent pas prendre de lait infantile. Donc, c'est forcément du lait maternel. Donc, l'allaitement est hyper important pour les enfants prématurés. Mais soit le pédiatre m'en a parlé et j'ai pas pris l'info. Ce qui est très probable parce que je me rends même compte a posteriori maintenant en revoyant des photos, des vidéos, tu as des trucs où mon cerveau a pas imprimé des choses. Par exemple, au tout début, j'étais persuadée que Sherazade n'avait jamais été intubée parce que notamment à un moment en réa, on est quand même resté 7 semaines en réanimation avec Sherazade, c'était chaud et on a vu malheureusement des bébés partir et des bébés dans des états très compliqués et dont un bébé qui avait de plus, alors plus l'état était compliqué, plus ils mettent des machines un peu plus conséquentes. Et un bébé intubé avec une machine où il est sur un matelas et la machine envoie de l'air pulsé dans les poumons par intubation pour essayer d'ouvrir les alvéoles. Enfin, tu vois, le bébé, c'est très impressionnant parce qu'il a un masque, il est intubé, il est secoué comme, je sais pas, il tremble de partout, il est sur un petit matelas gonflable. Et ça fait un gros bruit de machine, comme un hélicoptère, tu vois, dans la salle. Et je me souviens avoir vu ce bébé et j'avais dit au pédiatre, bah, dis donc, heureusement, enfin, heureusement, pas heureusement, mais je sais pas si j'aurais supporté de voir Sherazade comme ça. Et en fait, il m'a regardé, mais vous l'avez vue comme ça, en fait. Les premières heures, elle était comme ça. Mais mon cerveau a pas imprimé ces images-là. Donc aujourd'hui, bah, j'en ai pas de vrais souvenirs. Et l'allaitement, eh bien, j'avais complètement oublié ça, cet aspect très important. Et c'est après l'accouchement dans ma chambre à maternité que la petite infirmière puéricultrice est arrivée en me disant, bon, bah, madame, voilà, ça, c'est un tire-lait. Voilà comment on tire son lait, voilà les petits trucs, comment on dit, stériles, pardon pour le gros mot. Les têtrelles et les petits biberons stériles. Donc, vous tirez votre lait, vous fermez bien, vous lavez bien les mains, vous désinfectez, vous lavez bien les seins. Avant de tirer, parce que pour votre bébé, c'est très important que tout reste stérile, parce qu'il faut lui donner le lait par sonde. Mais si tu veux, moi j'étais là, elle me parlait, j'avais pas encore vu Sherazade, donc je sais de quoi elle parle, je comprends rien à ce qu'elle dit. Elle me ramène un espèce de truc, je comprends pas s'il faut que je fasse un sein, deux seins, je comprends à peine comment marche le tire-lait. Je suis dévastée, je suis là, genre, mais d'accord, mais quand est-ce que je peux voir ma fille? Laissez-moi me lever, aller voir ma fille. Ah bah attendez, faut enlever la sonde, etc. Donc je tire plus ou moins mon lait. Mais si tu veux, je le fais de manière automatique, je ne comprends pas ce qui se passe. La nana m'explique, mais je ne suis pas hyper réceptive, je ne suis que triste, je ne fais que pleurer. Voilà, je suis complètement à l'ouest.
Ouais, tu es en pilote automatique en fait. On t'a dit, madame, tirez votre lait, tu dis, ouais. Ok, tu tires ton lait, mais tu ne sais pas pourquoi tu le fais, comment, ouais. Tu ne comprends pas très bien. Tu n'es pas dans un truc de je dois enclencher cet allaitement, enfin, il faut que j'enclenche cet allaitement parce que j'avais envie d'allaiter ma fille. Là, tu le fais parce qu'on te dit de le faire, quoi.
Ah ouais, là il s'agit plus d'envie, de rien, là sur le moment je fais des trucs automatiquement, je sais même pas si je fais bien, pas bien, enfin je suis à moitié saoulée mais je le fais quand même, parce qu'en fait je suis une petite fille qui obéit à ce qu'on lui dit là, hein. Je suis en mode genre j'ai peur, je sais pas ce qui se passe, ok je vais faire ce que vous me dites, et donc voilà, et donc je tire mon lait, et on finit le jour même par descendre en réa, pour voir Sherazade, parce que je réussis à me lever, faire pipi, tout ça. Donc, sur un siège roulant, là, je vais la voir dans sa couveuse. Bon, bah là, c'est choquant. Et là, en fait, je me rappelle, il y a plein de gens qui viennent nous parler, les uns à la suite des autres. T'as l'infirmière qui s'en occupe, t'as le médecin de service, je crois que t'as le chef de service aussi qui vient voir. Et t'as Laetitia, qui était la conseillère en allaitement de la néonatologie. Parce que dans les néonatologies, en tout cas celles où on était à Lyon, tu as une dame qui est infirmière puéricultrice, si je ne me trompe pas, ou peut-être pédiatre, je ne sais pas, mais qui s'appelle Laetitia. Laetitia, je t'embrasse si tu écoutes ce podcast, qui a un métier formidable, qui est qu'elle est la conseillère en lactation. Elle ne s'occupe que de ça au sein de la néonatologie. Donc, elle fait le tour des mamans et elle leur raconte tout et elle les motive. Et franchement, cette nana, c'est une super héroïne parce que je ne sais pas comment elle fait, mais elle arrive à convaincre pas mal de mamans d'arriver à mettre en place un allaitement et surtout le fait que ce soit possible. Parce que ce qui est compliqué quand tu arrives dans la réanimation, c'est que allaiter, ça semble impossible, le bout du monde, trop dur, les Jeux Olympiques, du marathon, de l'impossibilité absolue, quoi. Trop dur.
Tu m'étonnes.
Moi, j'étais là, donc, elle me parle, honnêtement, au tout début, je suis limite en train de me dire, cette nana m'agace, parce qu'elle me parle d'allaitement, alors je sais même pas si mon enfant va vivre, je sais pas si ça va bien se passer entre nous, parce que là, en fait, je ne comprends rien ce qui se passe. Donc, si on pouvait pas me parler d'allaitement pendant 1000 ans, ça m'arrangerait. Mais ça, c'est ma première impression sur le moment, parce que je suis triste, parce que j'ai peur, etc.
Oui, parce que tu es sous le choc. Hein.
Ouais, et au final, je ne regrette pas qu'elle n'ait pas lâché, qu'elle soit venue me voir pour m'en reparler. Parce qu'en fait, elle m'a accrochée à quelque chose qu'ensuite, j'étais capable de mener par moi-même. Mais elle a réussi à me mettre dans le wagon, quoi, en gros.
Ça te redonnait du pouvoir sur ce qui se passait.
Ouais. Alors, au tout début, pas trop. Hein. Au tout début, du coup, elle me briefe, elle me raconte comment on fait, où sont les têtes, les biberons, les tire-laits. Alors, il faut appeler tel numéro pour qu'on vous livre un tire-lait. Comme ça, vous avez un tire-lait avec vous. J'étais, ah bon, mais même quand je vais sortir de l'hôpital, je vais avoir un tire-lait. Bah oui, parce qu'en fait, il faut que vous tiriez votre lait tout le temps. Je la mets tout le temps, quoi. Je veux dire, 3-4 fois par jour. Elle dit, alors non, madame, en fait, pour mettre en place un allaitement, votre bébé, il est dans la couveuse. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que il faut que vous tiriez votre lait toutes les 2 heures, au moins 12 fois par jour. Il faut tirer aussi son lait entre 4h et 5h du matin parce qu'il y a un pic de lactation, donc c'est ça qui permettra de vraiment avoir une super lactation tout le temps. Il faut utiliser telle marque de tire-lait, alors je sais pas si on a le droit de faire la pub ici, mais c'est j'ai le droit ou pas de dire la marque,
vas-y.
Medelia, voilà, c'est Medelia, c'était mon tire-lait d'amour pendant toute cette aventure, à tel point qu'un jour je suis arrivée dans un nouveau service à l'hôpital à Necker, on avait été transféré, ce n'était pas le même tire-lait Medelia, j'ai fondu en larmes. je ne peux pas tirer mon lait sans un tire-lait Medelia, et là on a été genre, vous êtes sérieuse, enfin calmez-vous, vous êtes payée par la marque, quoi. Je dis, non, je ne suis pas payée par la marque, mais enfin de toute façon n'importe quoi me contrarie. et j'étais tellement fatiguée dans des situations si extrêmes que mon cerveau était vraiment mon meilleur pote, donc il ne fallait pas me séparer de lui. C'était très important. Je passais beaucoup de temps avec
Il y en a qui détestent le tire-lait, toi, c'était ton meilleur pote.
Ouais, bah celui-là, en fait, hein, parce qu'il y en a plein d'autres que j'ai détestés, mais alors vraiment, celui-là a changé mon allaitement. Enfin, m'a vraiment soulagée énormément parce que je ne sais pas comment c'est étudié, mais ça produit beaucoup plus de lait, il est beaucoup plus doux, enfin, ça marche beaucoup mieux, quoi. Bref, donc, Laetitia me briefe sur tout ça.
Comment elle arrive à te convaincre que c'est le bon truc à faire ? Tu te souviens de mots qu'elle te dit qui te percutent plus que d'autres ?
Bah, il y a un peu... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a un, elle m'explique quand même, hein, puis les médecins me l'expliquent, ils disent, voilà... Votre bébé, il peut pas avoir de lait infantile. Donc, de toute façon, ce sera du lait maternel. Si c'est pas votre lait, ce sera du lait d'une autre maman qui est donnée au lactarium. Mais le meilleur pour votre bébé, c'est votre lait. Et en fait, bah ça, c'est quand même l'argument le plus convaincant quand ton bébé est entre la vie et la mort et que tu es censée être encore enceinte, que tu es deg d'avoir accouché, que tu es deg de pas pouvoir avoir ton bébé contre toi. Tu te sens un peu comme une merde parce que tu te dis « j'ai pas été capable de mener la grossesse au bout, tu as de la culpabilité, etc. » Et tu te dis « bah ok, il y a un truc que je peux faire pour ma fille, là, c'est tirer mon lait en fait. » Donc, j'ai complètement projeté mon lien avec ma fille sur ce tire-allaitement. Et c'est ça, je pense, qui m'a donné énormément de détermination. Et je pense n'avoir jamais rien fait dans ma vie avec plus de détermination que ce tire-allaitement. C'est-à-dire que c'était un repère, clairement, tu vois. C'était même si la nuit, je me réveillais... avec des réveils toute seule en me demandant comment elle allait tout ça. Et elle n'était pas avec moi, elle était à l'hôpital dans sa couveuse et tout ça, mais le fait de me réveiller la nuit, c'était comme avoir un bébé un peu. C'était comme être avec elle un peu, quoi. Donc, je galérais. En plus, il y a un truc qui est... Enfin, clairement, il faut quand même imaginer que la journée, je tirais mon lait dans la salle de réanimation à côté de la couveuse, sur un tabouret... derrière un paravent, dans la salle, il y a beaucoup de gens, tu vois, tu as les médecins, tu as les autres parents. Après, moi, je suis quelqu'un de très... Enfin, je ne suis pas pudique, mais du tout, du tout, du tout. Donc, heureusement, mais je pense à d'autres mamans, notamment il y avait des mamans voilées et tout ça. Je me disais, putain, les pauvres, tu avais les salles d'allaitement, mais les salles d'allaitement, on ne pouvait pas être plus de deux parce que c'est le coronavirus. C'est une logistique. Et puis moi, en fait, je voulais rester tout le temps à côté de la couveuse. Tu ne pouvais pas me décrocher plus de 10 minutes de la couveuse. Donc, je n'avais pas tiré mon lait. Et puis, il y a le fait aussi de tirer ton lait à côté de la couveuse en voyant ton enfant, ça augmente la production de lait. Parce que psychologiquement, ton corps t'envoie des signaux en disant, mais il y a ton bébé qui est là, allez hop, on produit du lait, quoi. Donc, moi, je tirais vraiment de manière... Après, j'aime pas dire le mot pudeur parce que je trouve pas ça impudique d'allaiter, de montrer ses seins vu qu'on sait pour tirer son lait. Mais bon, c'est pas un truc qui me dérangeait, moi. Mais c'est vrai qu'il faut quand même imaginer que j'ai passé des heures à côté de cette couveuse, assise sur ces putains de tabourets, un peu courbée comme ça sur mon tire-lait, en ayant mal parce que j'avais une césarienne. Donc en plus, quand tu tires, bah, t'as les fameuses tranchées là, ou trachées, je sais plus comment ça s'appelle, mais.
Tranchées,
voilà.
Des contractions utérines.
Des contractions, mais je te jure, il y a des moments, je vais tomber dans les pommes, les gars, secours. Parfois, les infirmières péricultrices, elles passent, moi, ça va, je voulais pas aller vous reposer. Et tu vois, et autant, t'es dans un service de néonates, ils essayent de tout faire pour, tu vois, ils te proposent des paravents, ils sont hyper sympas, ils te proposent le tire-lait, le machin, le truc. Mais en fait, ça n'enlève rien au fait que, bah, ton bébé dans la couveuse, t'as hyper peur, tu tires ton lait, t'es là en train de regarder le scope. Et les lignes du cœur, de l'oxygène et de la respiration. Et tu regardes les désaturations, les bradycardies. Je me souviens très bien, tu es en train de tirer mon lait. Je dis, allez, Sherazade, allez, on remonte. Non, tu recommences à respirer. Allez, il faut remonter, là. Il faut remonter au-dessus de 90. Enfin, c'est surréaliste, en fait. Parce qu'il y a même des moments où tu tires ton lait et elle fait un malaise à côté de toi. Et tu es genre, mais elle va... Ça va le faire ou pas ? Enfin, parce que... C'est dur, en fait, d'arriver à continuer alors que tu te dis, mais est-ce qu'elle va vivre ? Quand tu as vraiment peur pour sa vie, c'est très compliqué quand même de, tu vois, parce qu'en plus, on te dit, bon, alors, pour réussir votre tir à l'allaitement, il ne faut pas être trop fatigué, pas trop stressé. Tu dis, ah, bah, ça tombe super mal, les gars, parce que là, je suis en réanimation avec mon gosse. Donc, je ne vais pas être fatigué, pas stressé. Là, je fais que chialer, en fait. Donc, là, si c'est vraiment une condition, je ne pense pas que ça va marcher. Mais,
ça a été compliqué à mettre en place. Tu as trouvé que ça a été difficile d'avoir des quantités de lait, etc. Parce qu'on sait que les bébés prématurés, ils ont besoin de très peu en quantité de lait. D'ailleurs, souvent, vous donnez du lait au lactarium parce que vous produisez rapidement des quantités qui sont supérieures
alors
à ce dont votre bébé a besoin.
Ce qui est compliqué, surtout au début, c'est que tu as très peu de lait et c'est normal parce que c'est le début. Donc oui, assez vite, tu couvres les quantités de ton bébé. Donc ça, c'est chouette. Par contre, ce qui est compliqué, c'est que tu arrives dans l'area, tu poses tes bouteilles de lait et à côté de ça, tu as les deux autres bouteilles de lait de la nana qui est là, mais depuis 2 semaines, 3 semaines, et c'est normal, elle a rempli les bouteilles de lait. Et toi, tu es là genre, putain, j'ai 20 millilitres, fais chier. Tout ça pour ça, quoi. Et en fait, faut tenir sur la longueur. Et le truc qui m'a aidé beaucoup, c'est Laetitia qui a fait ça. En fait, il faisait une étude sur l'allaitement des bébés prématurés à l'hôpital où j'étais, où on était à Lyon. Et donc, ils nous avaient proposé de faire partie de l'étude. Et un truc chouette de l'étude, c'est qu'ils nous mettaient en relation avec une autre maman qui, elle aussi, avait eu un bébé prématuré, à peu près du même terme que le nôtre, mais qui en était sortie depuis 2-3 ans, tu vois. Donc, moi, j'étais mise en relation avec Kerima, qui avait eu son petit garçon qui était né à 25 semaines et qui s'en était sortie. Et donc, elle venait... une à deux fois par semaine, me voir en néonatologie pour qu'on parle de l'allaitement, pour me donner des conseils, machin. Mais en fait, c'est un lien hyper précieux parce que ben, moi, en général, à l'arrivée, on avait rendez-vous à telle heure. J'arrivais une demi-heure après en larmes parce qu'il y avait eu un malaise ou que sais-je. Je suis désolée, elle n'arrête pas de désaturer. Il y a plein de bradycardie. C'est horrible. On refait un test infectieux. On ne sait pas. Son canal artériel ne se ferme pas. Enfin bon, bref, j'étais paniquée parce que je ne savais pas si mon bébé allait vivre. Et en fait, à la fois, plein de fois, j'avais pas envie de faire tes rendez-vous parce que tu as envie d'être scotché comme ça, enchaîné au scope et ne pas perdre de vue une seule ligne de constante vitale parce que tu as l'impression que si tu pars 10 minutes, ton bébé va partir, quoi. Et en même temps, c'était super de faire ces rendez-vous parce que je pense que c'est elle, en fait, à des moments où j'aurais pu abandonner, parce qu'il y a plein de moments où j'aurais pu abandonner. Tu vois, il y a des moments où ça a été compliqué, quoi, où Charlotte enchaînait les malaises, où elle prenait plus de poids, où elle fermait pas son canal artériel, où il a failli la transfuser, ou enfin bon, il y a eu plein de moments, c'est les montagnes russes, hein, la prématurité, la réanimation. Il y a plein de moments où j'étais en mode genre merde, fais chier. Et c'est elle qui me disait non, tu vas voir, ça va aller, il faut continuer. Et puis j'étais, puis ma production de lait, ça augmente pas, j'en ai marre. Et t'as, mais si, ça va augmenter. Fais bien, tire bien ton lait entre 4h et 5h du matin. Je sais, c'est chiant, mais tu vas voir. Au bout d'un moment, ça va se mettre en place. Et en fait, elle avait raison. Voilà, c'est pas grave parfois de patiner pendant un petit moment, que ça se débloque et qu'après ça se met en place, quoi. Et ça, c'était hyper précieux. Et ça, avoir cette autre maman, et puis en plus la voir avec son petit garçon, que tout allait bien aujourd'hui, qu'il avait été allaité jusqu'à ses 2 ans et que voilà, et qu'il avait pas de séquelles alors qu'il était né à 25 semaines, c'était ma bouée, quoi. Je me disais, oh là là, d'accord, bon, c'est possible.
Ça te permettait de te projeter dans quelque chose de positif.
Ouais.
Où tout allait bien.
Ouais, donc ça, c'était hyper précieux. Après, les moments où vraiment je me suis dit c'est trop dur, en fait, le vrai truc, mais en fait, c'était très dur. Mais vu que pour moi, ça a été mon lien avec ma fille, je l'ai fait avec énormément de détermination et rien ne pouvait m'empêcher d'allaiter, quoi, en gros. Maintenant, à l'époque et encore maintenant, il y a un truc qui vraiment me saoule dans l'allaitement, qui est super relou. Je vais pas du tout être politique en disant ça, mais c'est qu'on ne peut pas boire d'alcool et qu'on peut pas fumer de clopes. C'est trop chiant. C'est-à-dire que parfois, tu sais, elle me dit ça va et tout. Je dis, j'en peux plus. Je fais que pleurer. Je suis pas stressée. Je suis pas sûre que ça va vivre. Je voudrais pouvoir boire un verre le soir. Je voudrais pouvoir boire un verre. Elle était genre, non, mais c'est mieux de pas. Alors après, elle était bien parce qu'elle culpabilisait pas. Elle disait, bon, écoutez, si vraiment vous êtes au bout du rouleau et vous voulez boire un verre, bah, très bien. Vous tirez votre lit. Vous buvez votre verre, vous retirez 3 heures après, vous le jetez et vous retirez 6 heures après. 6 heures après, c'est bon. Et en fait, c'est là où tu apprends que tu as des petits trucs où il y a un moment où tu peux fumer une clope et un moment où tu peux boire un verre. Après, c'est quand même mieux de ne pas reprendre, se remettre à picoler.
Oui, mais c'est un peu plus souple que ce qu'on imagine.
Voilà, c'est ça. On peut s'arranger, quoi. Après, évidemment, moi qui étais en mode j'adore être enceinte, mais par contre, j'aimais bien les apéros, quoi. Donc, j'avais dit à mon mec, je te préviens, au moment où j'accouche, que je reviens dans ma chambre, j'ai une bouteille de Dompé et des sushis. J'ai eu ma bouteille de Dompé. Bah, alors, le sushi, j'ai pu les manger, mais la bouteille de Dompé, on a attendu que Sherazade sorte de l'hôpital pour la boire, tu vois. Parce que j'étais en mode, genre, je ne vais pas boire du Dompé, laissez-moi tranquille. Je vais très bien aller. Ça va être beaucoup mieux.
Ok, alors donc tout ce temps, tu tires ton lait. Là, donc Sherazade naît à 26 semaines.
Ouais.
Jusqu'à quel âge elle est sondée? Donc tu tires ton lait, il lui est donné par sonde. Et à quel moment après on bascule sur un autre contenant?
Mais hyper longtemps. Hyper longtemps. C'est le truc qui a pris le plus de temps. En fait, elle naît à 26 semaines. Je pense que je fais la première mise au sein. Mes tétés de contact, elle doit avoir un mois de vie. Donc, tu vois,
il lui manque encore 2 mois. Ça va
être mi-novembre, tu vois. On est resté à l'hôpital jusqu'au 6 janvier. Donc, il faut imaginer que pendant tout ce temps, quasiment, elle était en sonde. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on la mettait au sein. En fait, à partir de ces 1 mois, je la mettais au sein tous les jours quand elle allait bien. Ou tous les 2 jours, mais une fois par jour. En fait, on faisait un pot à pot par jour quand elle allait bien, quand elle était en état de supporter le pot à pot. Parce qu'ils encouragent beaucoup les pots à pot, c'est très bon pour le développement psychomoteur, pour la maman, pour augmenter la production de lait, parce que ton corps sent ton bébé, etc. Ça envoie des signaux qui font que ça stimule la lactation. Et ensuite, on a commencé à faire des tétés, mais ça l'épuisait, en fait. Et en fait, au tout début, c'était des tétés. Enfin, elle mâchouillait plus ou moins le bout du téton, mais elle aspirait rien. C'était pas du tout efficace. Mais c'était hyper important d'instaurer ce geste comme repère aussi émotionnel et affectif pour elle, parce que ça la permettait de se développer. Ça nous permettait de nous projeter sur quelque chose plus tard. Donc là, en gros, il te donne la fameuse fleur de lait. Donc, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est vraiment un outil à l'hôpital. Alors, la fleur de lait, c'est con, j'aurais dû te la montrer, j'en ai une rangée quelque part, je ne sais plus où. Alors, c'est une petite fleur avec plein de trucs écrits dedans, avec plein de pétales. Et en fait, tu as différentes choses que le bébé doit acquérir. Et au fur et à mesure, d'accord, tu coloris la fleur. Donc, tu as « Est-ce qu'elle a pris le sein ?» combien de temps elle a pris le sein, combien de temps elle a tenu le sein en bouche, est-ce qu'elle a fait des suctions, est-ce qu'elle a fait juste une succion puis elle s'est endormie, est-ce qu'elle a fait 5 suctions ou est-ce qu'elle a fait 10 suctions, combien de pauses elle a fait entre les deux, est-ce qu'elle a dégluti ou pas, et en fait tu mesures un peu tout ça, et quand toute la fleur est coloriée, ça veut dire que l'allaitement il est a priori en place. Donc, d'accord, cette fleur je l'ai coloriée entre le 10.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Novembre, et allez, peut-être quoi, le 30 décembre, tu vois. Enfin, c'était vraiment...
Le 10 novembre, quand tu commences ces peau à peau, est-ce que Sherazade est considérée comme hors de danger ou pas encore?
Pas du tout. Non, non. Il y a même des moments très compliqués où on l'a en peau à peau, où elle fait des malaises, où on la réanime sur nous. Hein. Enfin, c'est des moments un peu chauds que tu gardes quand même. Hein, parce que quand t'as ton bébé contre toi et que t'entends l'alarme sonner et qu'elle s'arrête pas de sonner et que t'es là, allez, remonte, remonte. Et tu vois, tu lui parles en disant, allez, il faut pas faire de bêtises, allez, ma chérie, maman est avec toi. Mais tu vis un moment complexe parce que en fait, c'est pas une bêtise qu'elle est en train de faire, c'est un arrêt cardiaque et que tu vois, t'es un peu en mode genre, ok, ça va bien se passer. Non, Sherazade, en fait, elle est restée 7 semaines en réanimation. Quand t'es en réanimation, ça veut dire que ton pronostic vital est engagé sur les 12 prochaines heures. Donc, les médecins peuvent pas te dire si ton bébé, dans 12 heures, il sera ok ou pas. ça veut dire ça, la réanimation. Donc, cette semaine,
pendant
c'est
cette semaine.
Mais pendant tout ce temps-là, on fait des pots à peau et on fait des mises au sein. Il y a des jours où on ne peut pas parce qu'elle est trop faible, parce que... elle n'a pas une bonne couleur, parce que son poids est trop stationnaire, parce qu'on, pour plein de raisons, parce qu'elle a fait trop d'événements, trop de bêtises, on appelle ça les bêtises, mais c'est les malaises, en fait, les bradycardies et les désaturations. Donc voilà, pendant cette semaine. Au bout de cette semaine, elle finit par refermer son canal artériel, parce que le problème de Sherazade, c'est que tu as un canal artériel dans le cœur qui, normalement, chez les bébés, se ferme à la première respiration quand ils arrivent dehors. Les prématurés, très souvent... le canal ne se referme pas, ce qui fait que le sang passe entre les deux ventricules, surirrigue les poumons, qui fait qu'il n'arrive pas à bien respirer parce que les poumons sont surirrigués en sang et que le système digestif n'est pas irrigué, donc elle est ballonnée, enfin, c'est la catastrophe, c'est compliqué pour faire fonctionner le système digestif, quoi. Et prendre du poids, etc. Donc, elle met cette semaine, au bout de cette semaine, elle ferme son canal artériel. Là, ça commence à aller mieux. Elle finit par passer en soins intensifs. En soins intensifs, en fait, le pronostic vital n'est pas engagé sur les 12 prochaines heures, mais ils font quand même très attention. Et tu peux souvent avoir des bébés qui font soins intensifs, mais qui repartent en réa parce qu'une infection, parce que trop de bêtises, etc. Donc, elle va faire bien aller trois semaines et demie de soins intensifs. Et après, elle passera en pédiatrie, tu vois. Mais elle est passée en pédiatrie fin décembre, un truc comme ça. On a dû faire 2 semaines de pédiatrie en tout. Et c'est plutôt en pédiatrie où on dit, bon, là, a priori, ça va. Mais si tu veux, à l'hôpital, quand tu rentres dans un service de néonates, ils te disent toujours, en fait, votre enfant ira bien quand elle sortira de l'hôpital. On ne peut pas vous dire... Enfin, c'est compliqué, mais les médecins, surtout avec la prématurité et l'extrême prématurité, ont du mal à te dire « ça y est, c'est bon ». Moi, j'ai mis beaucoup de temps, quand on me demandait comment on va à Sherazade, à répondre « elle va bien ». C'est très compliqué pour moi de dire « elle va bien ». Parce qu'ils sont prudents. Ils te disent « en fait, on n'est pas devin, il peut se passer plein d'événements. La prématurité, c'est les montagnes russes. Un moment, elle peut aller bien. 3 heures après, elle peut faire un malaise et partir ». Où on peut se rendre compte qu'elle a un début d'infection et en 24 heures, c'est plié. Après, ça se peut, elle est la preuve que non, que ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais voilà, nous, il y a des moments où elle est très bien et en 3 heures, ils ont pris la décision de la transfuser parce que sinon, ça l'aurait pas fait.
Ouais, donc ils peuvent pas te rassurer, ils peuvent pas te donner cet espoir-là.
Non, ils sont très prudents. Ils disent, vous savez, jusqu'à la sortie de l'hôpital, elle peut revenir en réanimation parce qu'elle va faire un malaise, une bradycardie, un peu trop sévère. Ils vont la garder en observation. Donc voilà, donc ça reste incertain, quoi.
Et à quel moment alors elle, il y a pas de, comment dire, de transition avec un contenant entre le moment où elle est en sonde et le moment où elle est au sein?
Alors si, en fait, elle est en sonde. Très longtemps. Mais malgré la sonde, il lui donne, il commence, alors on la met au sein, mais au sein, bon, au début, elle mange rien. Il lui donne des petites quantités. Au début, c'est 3-4 millilitres de lait avec une petite tétine. Tu vois, on a dû être transféré à Paris mi-décembre, sachant qu'elle est née le 10 octobre. Donc pendant 2 mois, elle a beaucoup de sonde et vers la fin, peut-être les 15 derniers jours, il lui donne un tout petit biberon par jour. On est transféré à Paris. Là, on repart en sonde complètement. Et puis, vu que tu changes d'hôpital, tu changes de service, donc il réévalue tout. Donc, il ne continue pas forcément exactement sur la même lancée. Mais bon, c'est normal aussi. Ils ont besoin d'évaluer l'état du bébé qui arrive et qui ne connaissent pas. Donc là, elle est encore en sonde. Et je la mets au sein. Et alors, en fait, les manières de fonctionner sont très différentes. À Lyon, dans la néonate de Lyon, ce qu'ils faisaient, c'est qu'une à deux fois par jour, la maman mettait au sein et ils faisaient des tétés pesées, ils appelaient ça. Donc, ils pesaient le bébé avant de le mettre au sein, ils pesaient le bébé après le mettre au sein, ils calculaient la quantité de lait qu'il était censé avoir pris et ensuite, ils complétaient par un biberon. De la différence, parce que en fait, c'est très important par la sonde, elle est nourrie vraiment toutes les 3 heures et les quantités sont hyper précises. Parce qu'il y a un tel enjeu sur le fait que les bébés grossissent qu'ils ne peuvent pas se permettre de dire « bon, bah, on verra au prochain repas ». Le bébé, il n'a pas de réserve. Mais alors là, c'était hyper décourageant parce qu'en fait, autant te dire que tu étais pesée, tu ne voyais rien, elle ne prenait rien. Même si ça faisait 2 mois que je la calais au sein, Walou, quoi. On voyait que dalle sur les pesées. Donc, j'étais vraiment super déprimée. Mais à chaque fois, je disais, ah, si, je la mets au sein quand même, je la mets au sein quand même. Et puis, on complétait par des vibrons. À Necker, ils étaient hyper différents. En fait, ils m'ont dit, non, non, on fait pas de tétée pesée. J'étais, comment ça, vous faites pas de tétée pesée, mais comment vous savez combien elle prend? Enfin, vous tirez votre lait 3 heures avant, vous la mettez au sein, et après l'avoir mis au sein, vous retirez votre lait et vous déduisez de la fois d'avant, comme ça, vous voyez à peu près combien elle a pris, et on complète en sonde. Mais si tu veux, pareil, en fait, vu que je tirais mon lait toutes les 2 heures depuis le 10 octobre, en fait, tant que je tirais mon lait, j'avais du lait. Donc, j'avais quasiment jamais pas de lait, tu vois ce que je veux dire? Mon tire-allaitement était tellement efficace que je voyais pas de différence. Donc, dans le doute, il complétait par la sonde entière. Et en fait, ce n'est que en arrivant en pédiatrie, donc fin décembre, qu'on a commencé à se dire, OK, là, il y a eu un vrai focus sur l'allaitement. Et c'est là où moi, j'ai dit, je veux une chambre enfant, parce que la chambre enfant, c'est ce qui te permet d'être tout le temps avec ton bébé et donc de la mettre au sein à chaque fois qu'il faut la nourrir. Et alors avant, quand on avait des chambres dans lesquelles on ne pouvait pas dormir, j'essayais, plus ça allait, plus la journée, c'était plus une ou deux mises au sein, c'était 3, 4, 5, parce que j'arrivais le matin, je faisais toutes les 3 heures, tu vois, jusqu'au soir. Mais la chambre mère-enfant, bah, ça change tout, parce que c'est vraiment toi qui fais tout, quoi. Mmh. Sauf que pour l'hôpital de Necker, notamment, il n'y a que 2 chambres mère-enfant. Pour tout le service de néonat, où il y a des dizaines de parents, quoi. Mais étant donné que j'étais très déterminée, que je tirais mon lait comme une tarée, que j'avais tellement de lait, tu vois, il y a un moment, j'étais quand même à 1,3 litre par jour de lait tiré, donc c'est beaucoup.
Tu nourrissais la planète entière, là.
Bah, du coup, je donnais au lactarium, tu vois. Alors, j'en mettais de côté, pour nous, on congelait le lait. Pour qu'on en ait en réserve, parce que ça se garde 4 mois, donc ensuite, même là, parfois quand je dois partir, on lui donne. Bon, là, il ne veut plus prendre le biberon, mais c'est une autre histoire. mais bref, j'ai des réserves. Et si tu veux, c'était vraiment devenu une denrée tellement précieuse que même à Lyon, je faisais déjà ça. Quand j'avais trop de lait, j'en donnais au lactarium, mais on en gardait aussi congelé. Si bien qu'on est quand même rentré de Lyon en voiture, Shahrazad, elle a pris un avion pour être transférée. Mais dans lequel on ne pouvait pas monter. Nous, on était en voiture avec la glacière électrique branchée sur secteur, le lait congelé à l'intérieur, et il faisait moins 15, et on était en manteau avec les fenêtres ouvertes pour garder le lait congelé. Ça va pas.
Donc là, en fait, on était passé sur un truc où bon, on me dit d'allaiter, je vais le faire, c'est le mieux pour mon bébé. Là, c'était devenu ton cap, quoi. C'était,
ouais, ouais, c'était là, je passais objectif. Les Jeux Olympiques de l'allaitement. Là, je faisais la médaille d'or, j'étais à fond. Là, j'allaitais, c'était ça que je faisais dans la vie. Enfin, c'est-à-dire que j'étais rentrée en allaitement.
Tu fais quoi dans la vie, j'allaite?
J'allaite, voilà, c'est ça. Mais franchement, ouais, enfin, ouais, ouais, c'est un métier à part entière, les gars. C'est vraiment, c'est huge, quoi, hein, quand même, d'arriver à faire ça. Et heureusement que mon mec m'a soutenue, mais sans lui, j'y serais pas arrivée. C'est-à-dire que mon mec, à partir du 10 octobre, il a fait la bouffe tous les jours. Je n'ai plus cuisiné, puisque je n'y arrivais pas. J'étais trop fatiguée, je me réveillais la nuit, machin. Et en fait, tu vois, il m'a complètement déchargée de ça. Et ça m'a grave aidée, tu vois, quand il fallait aller... chercher un autre tire-lait parce que mon tire-lait marchait plus, il y allait. Enfin, il était à fond. Quand il fallait aller chercher la glacière à brancher sur secteur, machin, pour remonter le lait congelé, il était autant à fond que moi pour trouver la glacière. Et en fait, alors c'est moi qui ai tire-allaité, hein, mais il m'a vachement soutenue et c'était hyper précieux. Et c'est ce qui m'a permis de tenir, en fait, ouais. Lui et puis ma détermination à me dire, en fait, c'est ça qui nourrit ma fille et qui, entre guillemets, peut potentiellement la sauver. Et je donne aussi, au bout d'un moment, j'avais tellement de lait que je me suis mise à en donner pour les autres bébés. Et là, j'étais en mode, bon, ben voilà, là, c'est ça que je fais dans la vie. En fait, je vais au chevet de ma fille. Donc, c'est dur parce qu'elle fait des dessins, etc. Mais là, le tir allaitement me projetait sur quelque chose de positif. C'est-à-dire, ça m'aidait à me dire, un jour, je l'allaiterai. Et tout ce lait que je tire sert à nourrir des bébés prématurés. Enfin, il y a un côté, voilà, c'est une mission, on le fait, on tient. C'est à la fois très dur, mais ça te donne un but, en fait. Donc, moi, ça m'a autant coûté que tenu. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ouais. Quand l'avenir est incertain, c'était ton cap qui te permettait de pas flancher, ouais, aussi, quoi.
Et puis, c'était la rigueur. Telle heure, il fallait tirer son lait, machin. Voilà, ça t'empêchait de tomber dans la déprime la plus totale, même si souvent, j'étais déprimée. Et puis, il y a un truc à la con, mais ça produit de l'ocytocine aussi, tirer ton lait. Donc, je pense aussi que ça aide. Ça développe des hormones qui te font te sentir quand même bien et qui te donnent l'impression de lier avec ton bébé. Enfin, tu vois, moi, il y a des moments que je chéris, qui ont été durs, mais que je chéris. Enfin, je me revois le nombre de fois où j'ai dû me laver les seins dans la salle de l'hôpital où mon bébé était. Alors, il y avait plusieurs bébés dans la même salle, en soins intensifs notamment. Et l'odeur du savon de l'hôpital, tu vois, où je me disais, mais c'est dingue ce moment, en fait. Enfin, je m'en rappellerai toute ma vie. Je trouvais que c'était presque cinématographique, quoi. Enfin, je trouvais ça presque héroïque, tu vois. Je me racontais un truc dans ma tête en me disant, voilà, c'est un moment de vie fou. Et aussi accepter le fait que, enfin, ce qui m'aidait aussi, c'était de me dire, en fait, c'est temporaire. Ça ne durera pas toute la vie. Et donc, c'est maintenant ou jamais. C'est-à-dire, si là, je ne vais pas au bout de ce tir-allaitement, si je ne vais pas au bout de cet allaitement, ça ne se reproduira peut-être pas. Enfin, peut-être j'aurai d'autres enfants ou peut-être pas. Mais c'est là, maintenant, pour Shahrazad, quoi. Enfin, on était très dans le moment présent et le fait d'arriver à aboutir quelque chose.
OK. Et alors, du coup, elle s'est mise au sein réellement et correctement et en se nourrissant au moment où tu rentres dans cette chambre mère-enfant à Necker ?
Ouais, en fait, avant, on était en pédiatrie et on essayait de la mettre au sein bah, déjà assez régulièrement, hein, toutes les 3 heures. Et honnêtement, c'était la galère. Et puis en plus, t'as ce truc où c'est très dur parce que dès que tu la mets au sein, dans ces cas-là, t'as l'infirmière qui arrive et l'élève infirmière qui arrive et l'aide-soignante et ton mec. Et tout le monde se met autour de toi en disant « Alors ?» On va regarder, elle prend le sein ou pas ? Et tu vois, et même une infirmière, mais que j'aimais bien, tu vois, à un moment, elle était, ah bon, si vous permettez, je vais vous aider un peu à la stimuler. Parce que, évidemment, Shahrazad, dès qu'elle était sur le sein, elle faisait, et pouf, elle s'endormait parce que c'était trop cool. Elle était tout le temps sondée, branchée, scopée dans une couveuse. Donc, dès qu'elle était contre mon sein, elle était trop bien, elle s'endormait, normal. Enfin, moi, à sa place, j'aurais fait la même chose. Et donc, c'était en mode, non, il faut la stimuler, il faut qu'elle reste éveillée, il faut qu'elle mange là. Allez, hop, il faut y aller. Et donc, elle se mettait à l'appeler ça chatouiller. Mais franchement, j'étais là au bout d'un moment, genre, arrêtez de toucher mon enfant comme ça. Parce que c'était trop, quoi. Enfin, c'était pas évident. Mais la chambre mère-enfant a tout changé. Parce qu'il y a aussi eu un truc. Il y a deux choses pour moi qui ont vachement changé. Je pense que ça a joué sur l'allaitement. Un, c'est retrouver une intimité avec ma fille. C'est-à-dire que je n'étais pas en permanence dans un lieu où les gens pouvaient rentrer, passer, d'autres gens, d'autres parents, même si c'est le jeu hein, d'avoir d'autres parents avec soi, et qu'on lit aussi avec eux et que ça aide aussi de les avoir. Ou des infirmières qui sont merveilleuses, qui sauvent la vie de nos enfants, avec qui j'ai énormément lié, que j'adore. Mais là, OK, les infirmières venaient toutes les 3 heures, mais que toutes les 3 heures. Et entre-temps, c'était moi et Shahrazad dans cette chambre. Et du coup, on s'est recréé une intimité toutes les deux. Enfin, non, on s'est pas recréé, on s'est créé une intimité toutes les deux parce qu'elle n'existait pas depuis le 10 octobre. Et là, on devait être fin décembre. Donc, ça faisait longtemps que j'attendais cette intimité. Je pense que ça a aidé. Une autre chose qui a aidé, c'est qu'il faut pas oublier que tout ça s'est passé en période de coronavirus, si bien qu'on devait garder tout le temps notre masque avec Shahrazad. Donc, ma fille a pas vu mon visage avant ce moment-là. Et j'ai pas pu l'embrasser ou la sentir même. Alors parfois on trichait un peu pendant les pots à peau, je dois avouer. Mais là, j'étais tout le temps dans une pièce avec elle et elle voyait mon visage, je pouvais l'embrasser tout le temps quand je voulais. Et ça, c'était juste mais incroyable. Ça paraît dingue, hein. Mais pour moi, je trouvais ça mais génial. Je l'ai tellement bouffé, quoi. Et je pense que ça a débloqué quelque chose parce que bah, du coup, tu es dans une relation beaucoup plus charnelle, beaucoup plus évidente. Et voilà, et même des moments où c'est pas forcément l'heure d'allaiter, je pouvais la garder contre moi, contre mon sein. Et en fait, plus ça a été, plus je l'avais contre moi. Alors, on continuait beaucoup la sonde. Il donnait des biberons de temps en temps. Il y a eu un moment où ils étaient en mode, bon, bah, vu qu'elle prend pas le sein, on va rajouter un biberon et tout ça. Et moi, j'ai quand même tenu, j'étais à non. En fait, je vous demande de pas rajouter des biberons. Je veux vraiment qu'on essaie d'allaiter. Il y avait une super pédiatre, je me rappelle lui avoir parlé. Et Shahrazad prenait pas énormément de poids non plus, etc. Mais un jour, je sais pas pourquoi, elle a dit, bon, allez, on met pas de sonde cette fois-ci. J'ai commencé, on met pas de sonde. C'est-à-dire qu'elle va être que allaitée. Elle était à ouais, on essaye. Alors, elle buvait un peu, mais tu vois, on avait du mal. En fait, elle tétait, mais je me rappelle, on avait beaucoup de mal à l'entendre déglutir. Donc, on ne savait pas si elle buvait ou pas. Et en fait, on a fait ça et elle a perdu du poids pendant 3 jours et après, elle s'est mise à reprendre. Et ça veut dire que ça a marché, en fait.
Donc là, c'était parti.
Et on voyait concrètement que ça marchait. Ça marchait certainement déjà un peu avant, mais il y a eu un déclic, quoi. Donc, je l'allaitais tout le temps. On a complètement arrêté la sonde du jour au lendemain. C'est même pas qu'on complétait par sonde. Et on donnait quand même, je sais plus si c'était 1 ou 2, peut-être 2 biberons par jour. Tu vois, je m'en rappelle déjà plus, mais même à la maison, quand on est rentré après l'hôpital, on avait 1 ou 2 biberons par jour avec du complément, boosté en calories machin pour les bébés prématurés pour les aider à prendre du poids. Mais ouais, l'allaitement a marché comme ça et ça, c'était vraiment... c'était incroyable. Mais tu vois, c'était assez tard parce qu'on est sorti de l'hôpital le 6 janvier. Et ça, et la chambre mère-enfant, je l'ai eue le soir de Noël, le 24 décembre. Donc, on a dû arrêter.
C'est vraiment sur la toute fin de l'hospice.
Une semaine, 10 jours avant la fin de l'hospitalisation, où vraiment, je l'ai nourrie au sein et on contrôlait son poids, mais elle était nourrie au sein, quoi. Donc, tu vois, c'était un très long chemin, quand même.
Ouais.
Très long.
Waouh. Donc, tu es rentrée à la maison, quelques biberons de compléments, des boosts.
Alors là, ouais, le fait de rentrer à la maison, c'était deux choses. Un, c'était génial de rentrer à la maison parce qu'on se retrouvait en famille aussi, parce que Charlotte a pu rencontrer son frère qu'elle n'avait pas rencontré avant le 6 janvier parce que coronavirus, encore une fois. Et il faut bien s'imaginer qu'à partir du moment où j'étais en chambre mère-enfant, Hamza, lui, s'occupait de mon fils. Avant, c'était mon père qui a complètement pris le relais. Et mon père et ma belle-mère, que je ne remercierai jamais assez, qui sont venus s'installer à la maison pendant toute notre période d'hospitalisation et qui sont complètement occupés de mon grand parce qu'on n'était pas capable de s'en occuper. Même quand on est revenu à Paris, moi, je n'étais pas capable de m'occuper de mon grand garçon parce que j'étais tout le temps avec Sherazade. Et une fois que avec Hamza, on dormait tous les deux dans des maisons des parents ou hébergés dans des trucs de bonne sœur pour être vraiment juste à côté de l'hôpital et que je ne me fatigue pas à faire des allers-retours, etc. Pour être vraiment auprès de Sherazade. Donc, papa a continué à assurer avec mon fils. Et ensuite, quand j'étais en chambre mère-enfant, là, je voyais beaucoup moins Hamza et Léonard qui étaient à la maison et moi à l'hôpital. Donc, c'était génial de se retrouver en famille à la maison. Enfin, c'était incroyable. Quand on avait l'impression d'avoir gagné au loto, si tu veux. J'avais jamais autant rêvé d'être sur mon canapé que cette période-là. Ça me semblait, tu m'aurais dit, tu veux aller aux Bahamas ou sur ton canapé avec ta famille. J'aurais dit, sur mon canapé avec ma famille, s'il te plaît. C'était vraiment génial.
Ça tombe bien parce que les Bahamas, tu ne pouvais pas y aller.
Oui, c'est ça. De toute façon, on ne pouvait pas. C'est le coronavirus. Dommage. Plus tard.
T'as rien loupé. Tu vois, t'as rien loupé finalement.
J'accepte les voyages aux Bahamas, ceci dit.
Ok. Mais on leur passera le message.
Voilà. Donc, à la fois, c'était génial, mais t'as quand même t'as peur parce que tu retournes à la maison avec ton bébé, que tu n'as plus le scope, que comment tu fais pour savoir s'il respire ou pas. Je pense que les premières nuits, on n'a pas du tout dormi, mais juste pour la regarder respirer, en fait. Et donc, voilà, donc faut arriver à gérer ça, gérer sa peur. Et en fait, c'est beaucoup plus dur de sortir de l'hôpital dans sa tête que de sortir de l'hôpital tout court. Moi, je suis encore maintenant, alors que... On est début avril, ça fait quand même 4 mois que je suis sortie de l'hôpital. Je suis encore dans l'hôpital dans ma tête sur pas mal de choses, tu vois. Donc voilà, mais on a bénéficié de l'hospitalisation à domicile. Et ça, c'est génial parce que les infirmières passent tous les jours, après tous les 2 jours, puis elles espacent, etc. Et puis au début, on pesait Sherazade tout le temps. Pour surveiller, parce qu'en plus, allaitement, etc. Et en fait, au bout d'un mois, tout allait bien. Elle fait des fausses routes de temps en temps. Donc ça, c'est un peu chiant à gérer. Mais on sait le gérer. Et puis, elle s'espace. Et puis, elle prend du poids. Donc du coup, l'hospitalisation à domicile, c'est fini au bout d'un mois. Et voilà. Et là, on est à la maison et on continue l'allaitement.
Et du coup, on peut dire qu'elle va bien?
Et ben ouais, cette phrase-là, que j'ai beaucoup de facilité à dire. Non, là, ça va. Pour tout te dire, on a vu la pédiatre aujourd'hui. Ça va. Elle a dépassé les 5 kilos, donc c'est vraiment génial. c'est trop bien. Je suis encore en mode. Au début, je suis à pédiatre, elle faisait plus de 5 kilos. J'étais genre, c'est génial, bravo, chérie Zad. Et elle me disait, genre, calme-toi, Amélie. J'étais, attends, hein, ça va, hein. Rappelle-toi en réa, quand elle prenait 5 grammes, on sautait en l'air. J'ai le droit de sauter en l'air parce qu'elle dépasse les 5 kilos. Merde. Je pense que la pauvre, elle va être traumatisée. Tu sais, quand elle sera enfant, je vais continuer à gueuler quand elle aura pris un kilo. Maman, t'es relou, tais-toi. Je n'ai pas vu. Je dis ça, ma maman t'aime. Donc ça va. L'allaitement se passe bien. Elle fait encore des petites fausses croûtes, mais c'est normal pour un préma. Et puis, on apprend à les gérer. Bon, là, elle ne veut plus prendre de biberon parce que parfois, on lui donne des biberons de lait, de mon lait que j'ai congelé. Parce que là, je commence à prendre une nounou qui vient de temps en temps, machin, mais on est en galère. Elle ne veut plus prendre le biberon parce que même à un moment, on lui donnait son médicament, là, le faire avec le biberon. Elle veut plus prendre de tétine, elle a bien compris. Elle est en mode genre, il n'y a pas moyen, je veux que les seins de maman. Donc là, l'allaitement est très bien en place.
Ouais, là, il n'y a plus de soucis, elle t'aide très bien, pas de sujet.
Ça roule, c'est trop bien. Mais justement, là, on va avoir un petit problème inverse qui va être de lui refaire accepter quelques biberons de temps en temps. Mais bon, je pense qu'on va y arriver. Et là, aujourd'hui, la pédiatre m'a dit, ça y est, on va commencer la diversification alimentaire, quoi. J'ai cru que j'allais chialer, je suis là, pardon, quoi, vraiment ? Vous êtes sûre ?
Ok, t'envisages quoi pour la suite de l'allaitement ?
Bah, écoute, moi, ça a été vraiment une révélation, cette expérience. Après, encore une fois, je pense que c'est très lié à notre histoire d'hôpital, etc. Je ne sais pas si je l'aurais vécu pareil si on avait eu une histoire différente. En tout cas, ça m'a fait redécouvrir l'allaitement parce que la première expérience était plutôt mauvaise. Et là, on peut dire que c'est une expérience extrêmement positive. Quand bien même elle a été semée d'embûches, au final, c'est une expérience très positive. J'adore les moments avec Shahrazade, etc. Donc, je compte continuer à allaiter. Je ne sais pas jusqu'à quand. On va voir. En fait, je me laisse, je ne sais pas. Je compte continuer.
Tu te laisses porter.
Mais je ne pense pas arrêter tout de suite. Là, tu vois, ça fait effectivement... demain, elle va avoir 6 mois en âge réel. Donc, ça fait effectivement 6 mois que j'allaite, entre guillemets, en tout cas que je tire à l'aide. Au début, je m'étais dit, oui, 6 mois, c'est bien, machin. Mais en fait, là, tout à l'heure, Hamza était là, un peu en blague. Hamza, c'est mon mec, il me disait, bon, bah alors, ça y est, hein, c'est fini l'allaitement, là. Maintenant, on passe au purée et tout. Et je suis là, genre, c'est pas fini l'allaitement, je t'interdis de dire ça. Il en est hors de question. Et t'as, non, mais c'est une blague. Je suis là, tu fais pas de blague là-dessus.
Sujet sensible.
Susceptible, n'est-ce pas? Mais je vais continuer. Et puis on verra. Et puis si à un moment j'en ai marre, bah j'arrêterai. Si à un moment j'ai pas de lait congelé, je m'empêcherai pas de lui donner du lait infantile parce que ça me dépannerait et que j'aurais envie de boire un coup. En fait, j'ai pas du tout envie de mettre ni d'objectif ni de truc en tête. Je sais que là je kiffe et que je vais continuer. Et surtout, j'ai la chance. Alors la chance et le devoir. Donc c'est que là je vais devoir prendre un congé pour présence parentale, parce que Shahrazade, elle a un système immunitaire qui va rester fragile pendant longtemps. Elle a une dysplasie pulmonaire. Donc, jusqu'à ses 2 ans, elle ne peut pas aller en collectivité. Donc, elle ne peut pas aller en crèche. Elle ne peut pas se faire garder en garde partagée par une assistante maternelle. Donc, elle a besoin d'un de ses 2 parents auprès d'elle. Donc, moi, je m'arrête de travailler au moins jusqu'à janvier 2022 pour rester avec elle. Mais donc ça, si tu veux, pour moi, ça me donne une très grande liberté en termes d'allaitement. C'est-à-dire que je sais que je suis avec elle tous les jours. Donc après, à moi de m'organiser, hein, si j'ai envie de continuer. En tout cas, ça facilite. Voilà, c'est pas comme si j'avais une deadline de « je dois reprendre le travail » et tout ça. Et ça, je dois dire que c'est tellement précieux de pouvoir avoir cette liberté-là. Et encore une fois, je le redis, je pense que toutes les femmes devraient pouvoir avoir ce choix au moins jusqu'aux 6 mois de leur enfant, et qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels c'est le cas, et que la France étant un grand pays en termes de soins, d'aide, de solidarité, etc., je ne doute pas que des gens comme Adrien Taquet vont défendre ce point et faire passer le congé maternité à 6 mois pour toutes les femmes, quoi. Enfin, il faut rejoindre Anna Roy, les filles, aller regarder l'Instagram d'Anna Roy, il faut absolument l'aider dans ce combat.
Tout à fait. Bon. Pas que pour l'allaitement, d'ailleurs.
Absolument.
Pour tout.
Oui,
tout
à fait.
Pour les enfants, pour la parentalité en général, pour l'attachement, pour tout est important.
Tu as complètement raison.
Ok, bah dis donc, ça fait une sacrée histoire.
Ouais, j'avoue.
Waouh, félicitations d'être arrivée jusque-là. Bravo, Shahrazade, de t'être accrochée.
Ouais, j'avoue. Ouais.
Cette expérience d'allaitement, quel impact elle aura eu dans ta vie pro ou perso? Elle n'est pas finie, mais...
Ah bah perso c'est énorme, c'est-à-dire que, enfin encore une fois, est-ce que c'est vraiment l'allaitement ou est-ce que c'est la situation, l'hospitalisation, etc. Mais j'ai tellement lié avec ma fille et en fait je me sens tellement plus puissante qu'avant, c'est-à-dire que ça, dans l'adversité, ça m'a tellement appris à me faire confiance, à si je vais avoir du lait et si je peux le faire et en fait je vais y arriver. Et en fait enfin, encore une fois, je n'ai jamais rien fait avec autant de détermination et je me rends compte qu'en fait, si je suis déterminée à faire quelque chose, je peux le faire, quoi. Quand bien même elle est sondée dans une couveuse et que machin, les troubles de l'oralité. Non, en fait, je me sens super puissante de l'allaiter.
Ça t'a redonné la confiance dans ton corps que t'avais un peu perdu à
Ouais.
cause de l'accouchement prématuré.
Ouais, absolument. Ouais, ça m'a vraiment permis de, moi, soigner quelque chose chez moi, en tout cas en termes d'estime et de confiance en moi. Je trouve ça tellement pratique, surtout. Enfin, c'est le truc dont, en fait, je ne m'en rendais pas compte. Mais en fait, je n'ai jamais de biberon. Je n'ai jamais à me demander est-ce que j'ai de l'eau, est-ce que j'ai le lait, est-ce que le biberon est propre, il n'est pas propre. C'est trop bien. Enfin, je la cale au sein. Ça
Elle est d'accord.
résout tout. Ouais, t'as entendu? Trop mignon. Oui, maman. Ça résout tout, c'est trop bien, c'est génial. Enfin, c'est des super attributs en fait. C'est
Incroyable, ça sert à
vraiment.
tout.
Ah ouais, c'est magique quoi. Donc j'adore ce côté hyper pratique, etc. D'un point de vue pro, bah c'est particulier parce que là je reprends pas le travail parce que il y a un truc médical. Après, je développe vachement ce que je fais sur Instagram, sur mon compte à moi, sur The Very Good Mother. Je fais des partenariats là. Je vais lancer ma marque, Allez l'amour, parce que c'était vraiment notre moto qui nous a permis de tenir pendant l'hôpital, etc. Et qu'on va en faire une. Enfin voilà, je suis en train d'imaginer la marque. L'idée, c'est que ce soit une marque solidaire, responsable, qu'on puisse aussi soutenir une association qui peut-être aide des bébés prématurés. Et que je trouve que c'est un joli message à diffuser un peu partout, etc. Et en fait, je vis du coup un peu une aventure entrepreneuriale que je ne connaissais pas avant. Le fait d'être chez moi, de pouvoir allaiter, de tout faire à distance, enfin, je trouve ça hyper pratique en fait. Enfin, ça me freine pas du tout, au contraire.
Tu donnerais quoi alors comme conseil à une maman qui a envie d'allaiter, et puis on va dire plus particulièrement à des mamans, à une maman qui se retrouve dans une situation comme la tienne, avec un bébé qui est prématuré, ce serait quoi ton meilleur conseil?
C'est hyper compliqué parce qu'en fait, c'est pense à toi, fais ce que tu veux, repose-toi, ne sois pas stressée, tout ça. Mais tout ça, dans une situation de prématurité ou pas, c'est un peu des conseils de merde parce que tu es en postpartum, tu es au bout de ta vie. Donc, quand on dit merci de déstresser, d'être reposée, tu es en mode genre mon bébé ne dort pas, je ne vois pas comment je ne pourrais pas être fatiguée. Donc, le vrai conseil, ce serait plus. Alors, se faire confiance, pareil, c'est plus une injonction qu'un conseil. C'est demander de l'aide.
Avoir
Demander
du
de l'aide,
soutien.
demander du soutien là où il y en a. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de proche ou de la famille ou il y a des conseillères en allaitement, dont c'est le job, qui sont géniales. Donc, moi, j'ai eu la chance d'en rencontrer à travers l'hôpital, Big Up Laetitia, à Lyon. Mais ouais, je pense qu'il faut demander de l'aide, soit une pédiatre, une puéricultrice, une conseillère en allaitement. Mais voilà, avoir quelqu'un dont c'est le métier qui t'explique vraiment les choses. Acheter du tagine banane. Ceci n'est pas une pub.
T'as des actions ou quoi?
Rémunéré. C'est bon, en plus, je ne suis pas rémunérée. Mais honnêtement, moi, j'ai testé dès que je recevais un nouveau t-shirt, parce qu'en fait, tu peux tirer ton lait et allaiter, mais en fait, ça s'ouvre sur le côté, donc c'est hyper pratique et tout ça, et les vêtements sont hyper jolis. Et en fait, il y a un côté se faire plaisir à soi. Donc, moi, je dis t'as une banane, mais en fait, ça peut être aller se faire un massage, une coupe de cheveux. Bon, en ce moment, rien n'est possible, mais quand tout sera possible à nouveau, essayer de penser à soi. Donc, penser à soi, évidemment, on est crevé, on est un postpartum, etc. Mais essayer de trouver du relais auprès du papa, de la famille, des nounous, pour se prendre des moments pour soi, absolument, se faire masser, se faire ce qui nous fait du bien, c'est très important.
Ok.
Voilà. Et pour la maman à l'hôpital, c'est ça, c'est pareil. Trouver du conseil. avoir le bon tirelet. Donc moi, on aurait compris quel était mon tirelet préféré, mais bien de choisir, parce que moi, c'était pour moi, mais il y a peut-être d'autres marques de tirelet chez Théaven qui sont bien aussi, enfin voilà. Donc c'est bien prendre le temps, investir de l'argent si nécessaire, ne pas avoir peur de ça pour se sentir bien dans son allaitement. Et mon dernier conseil pour la maman à l'hôpital, et c'est un conseil aussi pour les amis des mamans à l'hôpital, parce que j'ai pas mal de questions comme ça sur Instagram de gens qui disent « Ah bah ma copine, elle a accouché extrême prématurée, on ne sait pas quoi faire pour aider les parents, parce qu'en fait, on ne sait pas si on offre un cadeau pour le bébé, parce qu'on ne sait pas si le bébé va vivre. Donc, c'est une question un peu triviale, mais très vraie, à laquelle bah, tout le monde est confronté dans ces cas-là. C'est soulager le couple qui est en train de vivre ça, et a fortiori la maman. Donc, si vous pouvez les aider à payer des femmes de ménage qui vont faire le ménage chez eux, leur faire à manger, leur faire livrer à manger... parce que c'est hyper important de bien manger quand on tire à l'aide ou qu'on allaite. Donc, c'est ça, c'est le soutien.
Le soutien de la logistique. Voilà, ouais.
Logistique, voilà, pour que les parents et a fortiori la maman soient vraiment concentrés sur le bébé et le tir à l'aidement, etc. Et qu'ils essaient d'aller le mieux possible.
Ok. Ouais. Bon. Ça, voilà, c'est un conseil, c'est vrai qu'il fonctionne très bien pour tous les postpartums, mais encore plus
ouais.
quand il y a beaucoup de cadres à l'hôpital et que la vie est juste le quotidien est 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 fois plus compliqué que sur un postpartum normal, la logistique et le soutien.
Absolument.
Ok Amélie, merci pour ton histoire. Merci. Je vais te faire passer à l'interview Fast Milk avant qu'on se quitte. Amélie, quelle est ta tétée la plus insolite?
Bah, la plus insolite, la vraie plus insolite, mais ça, c'est un peu malgré moi. Hein, ça a été la première tétée, ça devait être le 9 ou 10 novembre, quand un jour, Maëva, l'infirmière de Sherazade, qui pesait un peu moins d'un kilo, je crois, encore, ou juste un kilo, m'a dit « Bon, bah, on va essayer de la mettre au sein. » Et je crois que j'ai regardé comme la Vierge Marie... en disant vraiment, vous êtes sûr qu'on va vraiment pouvoir faire ça ? Elle était ah oui, oui. Et le fait, voilà, tu te retrouves, t'es à l'hôpital dans un putain de transat Décathlon. Et je n'arrête pas de citer des marques, c'est pas bien. Mais dans un putain de transat.
Intersport.
oui, voilà. Et on te colle ton bébé qui a encore une assistance respiratoire, qui a un tube qui va jusqu'à son estomac, qui a des électrodes partout pour mesurer sa respiration, machin. On te dit, allez, là, on te le met, il fait moins d'un kilo, mais on va le mettre au sein. Et le fait de l'avoir mise au sein et qu'elle attrape le mamelon et qu'elle tète, alors elle n'a rien avalé ni rien, mais juste ça, honnêtement, c'était... extraordinaire comme moment. Je pense que ça a réparé beaucoup de choses juste sur ce moment-là. Je pense que j'ai tenu pendant longtemps grâce à ce moment-là, parce que c'est ce moment-là qui restait très longtemps dans mon cœur et dans ma tête. C'est que je visualisais quand je tirais mon lait et que je me disais un jour ça marchera. Et ouais, ça c'était insolite parce que putain, c'était pas gagné et c'était pas les conditions dont tu peux rêver pour mettre en place un allaitement. C'est pas les conditions les plus encourageantes à la base.
Non, c'est sûr. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement ?
En fait, ça a été... Non, mais je te jure, c'était à l'hôpital aussi. Donc, tu as tout ce truc à l'hôpital où franchement, tu es vraiment très loin du glamour parce que tu essayes de tire-allaiter. Mais à chaque fois que tu tire-allaites, tu dois être là, tu te déshabilles à moitié, tu es à moitié torse nu et tu te laves les seins et tu les essuies. Mais à côté de toi, il y a plein de gens. Il y a les parents des autres enfants, dont des mecs, machin. Donc, tu es en mode genre, oh là 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 là. Parfois, tu es un peu en mode, je suis de la vache, je les tire, etc. Et le truc, alors je sais pas si c'est glamour, mais mon truc le plus un peu marquant, ma sortie la plus marquante sur ce truc d'allaitement, c'est que un jour une personne dont je dirais ni la fonction ni le nom parce que je veux pas l'afficher, mais je trouve que c'est important de raconter l'anecdote, une personne qui est à l'hôpital et à fond sur l'allaitement est arrivée me voir, c'est quand on était arrivé à Necker dans le nouvel hôpital. Et si tu veux, je ne trouvais pas le bon tirelet Médéléa, puisqu'on a compris que Médéléa, c'était mon tirelet adoré, dans la salle où on pouvait prendre des tirelets. Du coup, je suis allée dans la salle d'allaitement où les mamans pouvaient aller allaiter. J'avais vu qu'il y avait un tirelet libre, donc je l'ai décroché, je l'ai pris, je l'ai mis à côté de la couveuse, parce que dans l'autre hôpital, on avait le droit de faire ça. Et là, je fais ça. Et là, au bout de 5 minutes, j'entends genre, elle est où? Elle est là! Le tire est là! Et là, je vois 4 nanas du service de l'hôpital qui arrivent dans la chambre en disant, mais c'est rendez ce tire, vous n'avez pas le droit! On a eu des vols! Rendez ce tire immédiatement! Je dis, alors, bonjour, calmez-vous, qui êtes-vous? Je tire mon lit, laissez-moi finir, je vais vous le rendre. Je suis pas en train de vous voler votre lit, je suis en train de tirer mon lit pour mon bébé qui est juste là. On se calme. Non, mais madame, c'est pas comme ça, il y a des règles, vous ne pouvez pas prendre le tire-lait comme ça. Je dis, oh, putain, d'accord, je vais vous rendre. Non, mais rendez-le maintenant. Je dis, alors vous allez me laisser tirer mon lait jusqu'au bout. Parce que, en fait, je ne vais pas vous le rendre comme ça à la seconde. Enfin, vous voyez, on va se parler autrement, on va se parler calmement, etc. S'en est suivi un échange pas hyper sympa parce que cette personne était en mode bon, alors très bien. Donc maintenant, on va faire le point sur votre allaitement. Donc, c'est très simple. Pour tirer votre lait, vous devez faire comme c'est, comme c'est, comme ça, comme ça, comme ça. Bonjour, on peut se parler toutes les deux parce qu'en fait, moi, ça fait depuis le 10 octobre que je tire mon lait. On est mi-décembre, ça fait 2 mois. Je peux vous dire, mon allaitement, il est en place. Donc, merci pour vos conseils. Mais sinon, on peut faire un dialogue plutôt que juste vous, un monologue en me disant comment on fait pour tirer son lait. Et donc, on parle, etc. Elle me disait, bon, et la nuit, donc, pour stériliser, vous mettez les petites pastilles pour le biberon. Je dis, ah non, mais ça, j'en ai pas besoin. Et t'as comme ça, vous en avez pas besoin. Vous faites quoi du lait que vous tirez la nuit? Il faut bien tirer la nuit, madame, pour la lactation. Je dis, ah oui, je sais, je tire la nuit. Mais honnêtement, je suis crevée. Je me sens pas de stériliser les biberons la nuit. Donc, en fait, en plus, le soir, en général, je bois un verre. Donc, plus simple, ce que je tire la nuit, je le jette. Ah, mais là, j'ai cru que j'avais tué un enfant devant elle. Elle dit, vous jetez votre lait, madame? Oui. Vous savez, ce truc qui sort de mon corps, en fait, donc dont j'ai le droit de disposer, en fait. Ah non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Peut-être que vous pouvez pas me laisser dire, mais je vais le dire, parce que c'est la vérité. Et elle était en mode, on ne peut pas, quand elle est une maman de prématurée, on ne peut pas jeter son lait, le lait, ça sauve des vies, je ne peux pas vous laisser dire ça, c'est très facile de stériliser, madame, ce n'est pas possible, ce n'est pas éthique. Alors là, elle m'a sorti le mot, ce n'est pas éthique. Donc, sur le moment, je me suis dit, OK, je me calme, parce que Charles était à côté de moi. Je dis, bon, merci, au revoir. Donc, elle a fini par partir. J'essaie de me calmer un peu. Et ensuite, j'ai entendu dans les couloirs qu'elle parlait de l'histoire à d'autres soignantes en disant, vous rendez compte quand même, la maman de machin, elle jette son lait, c'est quand même un scandale. Mais là, je l'ai attrapée, mais voilà, en lui disant qu'en fait, elle parlait à des gens qui avaient des parcours compliqués, qui étaient au chevet de leur enfant, que j'avais tiré mon lait le jour, la nuit, à côté d'une couveuse avec des désaturations à 60, des bradycardies qui descendaient à 100, voire en dessous, et que je continue à tirer, que mon enfant vive ou meure, quel que soit le niveau de ses constantes vitales, et que j'allais pas lui laisser me dire que j'étais pas éthique, parce que je tirais des quantités incroyables de lait, que je pouvais nourrir mon enfant et qu'en plus j'en donnais pour les autres enfants. Donc honnêtement, elle pouvait bien les faire foutre que si elle parlait comme ça aux enfants, enfin aux parents des bébés prématurés, elle devrait changer de métier et que si moi j'étais pas éthique, elle n'était pas humaine quoi. Et que voilà, et qu'on n'allait pas s'aimer, mais que c'était pas grave et que moi tout ce que je voulais c'est que mon bébé soit en vie. Donc on a eu une petite altercation comme ça. Bon, après il faut savoir qu'on s'est rabibochés. Elle est venue s'excuser, elle m'a dit pardon, j'aurais pas dû dire pas éthique, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est juste que je vous proposais une solution machin. Mais bon, voilà, c'était pas vraiment glamour comme anecdote.
Pas vraiment.
Mais je trouve ça important de la raconter parce qu'il y a toujours ce truc dans l'allaitement, des pro-allaitements à fond, à fond, à fond, et des contre-allaitements à fond. Et c'est un bon exemple de, t'as beau tout faire pour allaiter, tu auras toujours quelqu'un qui te critiquera pour te dire que c'est pas assez et quelqu'un qui te critiquera pour dire que c'est trop. Donc, je suis un peu en mode, genre, les gars, enfin, les filles, en l'occurrence.
Chacun son corps, chacun son lait.
Ouais, on y va, on fait comme on peut, comme on veut et tout va bien dans le meilleur des mondes.
Et alors, une fois que t'as arrêté de tirer ton lait, c'est quoi ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement?
J'ai la classique, la Madone, en fait, que j'adore quand même parce que je tiens, j'arrête dans mes bras, je la vois. Enfin, c'est trop mignon, c'est vraiment le truc hyper, que je projetais depuis longtemps dans l'allaitement et qui me rassure vachement. Mmh. Et quand même, on va pas se mentir, la nuit, la magie de l'avoir allongée contre toi. Et du coup, elle tète et toi, tu peux à moitié te rendormir, c'est trop bien.
Si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement. Alors, il y en a deux. Est-ce que tu veux me donner un mot pour chaque allaitement?
Premier allaitement, je dirais un mot. Je dirais rendez-vous manqué, tu vois. Je dirais que c'est dommage parce que si j'avais été mieux accompagnée, ça aurait peut-être mieux marché. Que j'aurais bien aimé peut-être aller plus loin dans le premier allaitement. Et puis dans le deuxième, j'ai envie de te dire, j'hésite entre détermination et exploit, je ne sais pas, tu vois, mais un truc comme ça, moi. Un truc de on ne lâche rien, c'est les Jeux Olympiques, on y va. C'est la médaille.
Jeux Olympiques.
Ouais, Jeux Olympiques. Jeux Olympiques, l'allaitement, bonjour.
Ok.
Koh-Lanta, ça marche aussi, je peux dire Koh-Lanta de l'allaitement.
Koh-Lanta?
Ouais,
Si tu veux.
Koh-Lanta. J'ai gagné, hein, je fais les poteaux, là, je suis arrivée jusqu'au bout.
T'es la dernière sur ton poteau, là.
Ouais, c'est bon, j'ai gagné.
Ok, merci beaucoup, Amélie.
Bah,
C'était très touchant d'entendre cette belle histoire.
Merci.
Longue vie à Shahrazad et à toi et à votre allaitement à toutes les deux, que ça
merci.
Dure le temps que tu veux, que tu peux, que ça vous convient. L'une et l'autre, qu'elles reprennent quand même un ou deux bibis histoire que tu puisses bouger. Ce serait cool.
C'est ça.
Et puis voilà, à vous, je vous dis que vous pouvez suivre Amélie sur son compte si ce n'est pas déjà fait, Amélie Chalea. The Very Good Mother, le compte que tu fais vivre aussi. Et le dernier, Allez l'amour, qui pour l'instant ne vit pas encore très bien, mais ça ne saurait tarder.
Ouais. Là, on en est au tout début. On a juste créé le compte pour pas qu'on nous le pique. Donc, il ne se passe un peu rien dessus. Mais
il y a une publication.
Je vous dis, ça va être de la slow fashion. Hein. On n'est pas du tout dans de la grosse production. Ça va pas aller très vite. Enfin, on n'est vraiment pas H&M. Mais justement, c'est un peu l'idée de prendre son temps, de faire une marque responsable et solidaire, des belles choses qui auront certainement un prix, mais qui, en tout cas, seront solidaires et qui arriveront en temps et en heure.
Voilà, chaque chose en son temps. Là, on est en train de faire un bébé.
Oui,
c'est bien.
Voilà.
Ok, et bah super. Merci encore.
Merci à toi, Charlotte.
Et puis voilà, à tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Et on finit sur un Allez l'amour.
Ouais, Allez l'amour. Merci, Charlotte.
Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Pour suivre l'actualité du podcast, ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous trouverez tous les épisodes et la rubrique Milk Letters. On se quitte encore et toujours avec Emma, la voix officielle de Milkshaker et son titre I'll Be There, qu'on ne présente plus. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
I hate to see you down. Can't stand to know you're hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. Text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. You know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I guide you, I'll fight with you, 'cause I love I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. Trust me every time I have your back, and I know that do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there. I'll be there.